Jamais écouté comme chaque soir Roméo. Chaque samedi, bonsoir Roméo.
Salut, salut à tous. Salut à tous.
Abul qui est de retour. Salut Abul.
Et qui va aller faire quelque chose.
Merci Abul. Hugo est avec nous aussi. Hugo est avec nous. Salut Hugo. Ah, Hugo, non. Jérémy aussi est avec nous. Salut Jérémy.
Allez, salut à tous.
Salut. Et Raled est avec nous. Salut Raled.
Ouais, salut les gars.
Et ben, donc nous allons revenir ce soir sur la 15e journée de Ligue 1. Alors, il y a eu beaucoup de matchs ce soir, beaucoup de buts. Enfin, il y a eu du suspense, etc. Donc on va pouvoir revenir. Je vous invite à venir réagir sur le chat ou dans le topic réaction aux émissions. Avant de commencer le débat, je vais rappeler les scores de la soirée avec le Paris Saint-Germain qui a battu au Parc des Princes Auxerre 1-0 grâce à un but de Clément. Lorient qui a arraché le match nul face à Grenoble au Moustoir. Des buts de César Consonne. Gamero pour Lorient et de Matsui et de Rouen pour Grenoble. Lille a écrasé Valenciennes 4-0 de Fro, Gervinho deux fois et Cavaille. Sochaux a battu Nice 1-0 grâce à un but de Mikari, le Tunisien. Toulouse a battu Boulogne-sur-Mer 1-0 grâce à un but de Fofana. Et enfin Lens, comme je l'avais prédit, a battu l'OM 1-0 à but d'Eduardo à la 93e et non à la 93e. Alors je vous propose de commencer par l'ordre des matchs que j'ai donné. Donc on va commencer par le Paris Saint-Germain qui a battu Auxerre. Un match qui a été marqué par Paris qui regagne de nouveau après plusieurs défaites et des matchs négatifs. Et puis surtout la blessure de Coupé. Messieurs, Raled, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ce match si tu l'as vu et donner ton sentiment sur la blessure de Coupé et Paris qui regagne à nouveau. Est-ce que ça va durer ou pas, Raled?
Moi j'ai pu voir le match. Ben, on a toujours vu le même type de match depuis le début de cette saison, hein, un PSG très poussif, qui n'est même pas capable d'aligner plusieurs passes de suite, et qui n'est même pas capable de construire une vraie action. Le seul but, c'est l'une des seules montées de Serra sur la droite, sur un très bon centre de Serra et une belle tête de Clément premier poteau. Mais ça reste toujours très 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 faible et très poussif pour le PSG, quoi. Moi, ça me rassure pas du tout pour la suite du championnat et pour la suite de cette saison. Ça me rassure pas du tout et on va se dépasser deux fois. Une fois à Boulogne mercredi et le week-end prochain à Bordeaux. Faudra un grand PSG pour ramener quelque chose de Bordeaux et même déjà de Boulogne déjà avant de passer Bordeaux. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Il y a eu un penalty non sifflé pour Auxerre. Un penalty très justifié. L'arbitre avait pris une bonne décision pour le penalty, mais il a été déjugé par l'arbitre de touche qui a indiqué coup franc. Ça a été l'un des tournants du match et aussi la grosse blessure de Coupé qui ne va pas faire son retour dans les prochains mois. Quoi. C'est une grosse mauvaise nouvelle pour le PSG. Mais on va voir ce que vaut Edel, le gardien de remplaçant. Je pense que c'est un très bon gardien. Mais de toute façon, on n'a plus le choix maintenant. Hein. Malheureusement, la blessure arrive au très mauvais moment pour le PSG. On la récupère avec Camara, on perd Coupé. Voilà, quoi. Moi je suis un peu dégoûté par rapport à ça. Mais aussi, je suis dégoûté par le jeu qu'on déploie depuis quelques temps. Et depuis le match de Lyon au Parc. C'est un PSG qu'on n'arrive plus à reconnaître qui a du mal à construire ses actions. Et voilà. Un PSG très décevant.
En fait, moi j'ai une question pour Khaled. Quand tu dis que ça fait depuis le match contre Lyon,
ouais,
qu'il n'y a plus de beaux jeux au PSG, tu parles de quelle année?
De cette saison. Quand tu as quand tu as le match de Lyon, c'est l'un des matchs où on a le mieux joué au niveau défensif, au niveau offensif, au niveau de la construction de balles. Là, depuis ce match-là, faudrait la vérité, c'est de la merde, quoi.
Non, donc parce que tu crois qu'avant ce match-là, c'était génial.
Non,
c'est bien que ça fait juste 5 ans que le PSG est pourri.
Non, mais depuis l'arrivée de Camboiré et la fin de l'ère Paul Le Guen, c'est un PSG qui était plus beau à voir. C'est vrai que c'est pas le Barça, ça sera le monde du Barça, ça sera jamais le Barça.
Non, 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 c'est même prétaf. C'est juste que je comprends pas, moi, ce mythe du PSG le plus beau avec Cambouaré. On me l'explique non, à chaque fois.
Début de saison, je te parle. Je te parle au début de saison. Il était plus...
Même en début de saison, c'était pas plus beau. C'était à peine différent. Je comprends pas. Moi, je comprends pas cette propagande du PSG à dire qu'en fait... Avec Cambouaré, c'était devenu un jeu sublime, que c'était beau.
Non, c'était sublime.
C'était moche, de toute façon. Même avec Cambouaré, même en début de saison, ça restait moche. C'est pas parce que c'est passé de très très moche à très moche que c'est mieux. Ça reste bien.
Ça reste bien, mais c'est mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. Voilà. Ça reste mieux que l'année dernière dans la qualité de...
Même période de l'année, vous étiez classé comme ça?
Non, t'es mieux même. Je pense qu'on t'est mieux. Oui, mais de toute façon, en Ligue 1, faut être pourri pour avoir.
Non, mais non, parce que moi, ce que j'aime bien chez les Parisiens, c'est que avec Cambouaré, plutôt que de faire le vrai bilan, en fait, c'est que c'est un jeu qui est très moche et vous êtes mal classé. Vous préférez dire que c'était plus beau, voire le seul aspect positif, en fait, que c'était juste. Plus beau, et encore, je suis même pas spécialement d'accord avec ça, mais voir que toutes les lacunes qui en plus au PSG, vous préférez pas les voir.
Ah non, moi je les vois, moi, les lacunes du PSG, je te le dis. Mais.
Ce que je veux dire. Non, mais il n'y a aucun. Je veux dire, en quoi ils ont progressé avec Cambouaré?
Déjà, l'équipe est plus. Je sais pas, avant, moi je te parle, avant le match de Lyon, tu vois, je parle pas de ce PSG-là depuis un mois. Parce que ce PSG depuis un mois est dégueulasse et poussif.
Moi, je contredisais ça parce que quand je vous dis depuis ce match ils sont dégueulasses, non, ils sont dégueulasses depuis 5 ans. Et c'est pas parce qu'il y a eu quelques matchs un peu et encore vraiment un peu supérieurs au niveau de l'entrain et de la volonté qu'a mis le PSG à créer du jeu que c'est devenu beau. Ça reste moche. Donc,
oui, je suis d'accord.
Moi, quand vous faites voir ça comme vous faites un petit peu, enfin, comme ce que font les supporters du PSG un peu naïvement, à voir juste qu'il y a eu un jeu qui a changé d'un iota, je préfère plutôt voir que le PSG va plus mal que l'an passé. Parce que, au final, c'est quand même ça le plus important. Parce que tu parles du Barça, mais le Barça n'inquiète pas que les jours où il fallait fermer le jeu, ils l'ont fermé aussi, tu vois. Donc,
Oui, mais nous, on est incapable de faire le jeu. Malheureusement, les joueurs n'ont pas changé lors de l'époque Paul Le Guen et maintenant Cambouaré. En plus, il a gardé le même groupe et en plus, il a rajouté des très bons joueurs comme Erding qui est coupé. Mais malheureusement, on reste toujours au point mort au niveau construction de jeu, au niveau qualité de jeu, au niveau surtout au fond de jeu. Au PSG, on n'a aucun fond de jeu et c'est ça qui commence à m'énerver. Et on m'a rabâché, ouais, Cambouaré, il va ramener du jeu, il va jouer offensif. Franchement, j'ai vu le match aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on a fait une bonne étape de match contre Auxerre tout à l'heure, mais on n'était pas à l'abri, d'une contre-attaque d'Auxerre, mais ça reste très, très poussif. Moi, je suis conscient, je suis pas aveugle, hein, je sais que le PSG n'a aucun fond de jeu. Voilà, c'est, de toute façon, on n'a pas les joueurs pour. C'est Seigneur qui déçoit de plus en plus.
Oui, c'est surtout toi qui déçois, hein, parce que à la même l'an passé, ouais, on parlait déjà de ça. Tu m'expliquais que si Seigneur avait signé à Chelsea ou Arsenal en fin de saison, c'était déjà comme un rêve, que tu vivais dans un rêve. Là, c'est juste de plus en plus clair pour toi, mais pour moi, c'est pas une surprise, parce que si Seigneur, il est ultra surcoté, mais franchement, c'est horrible. À quel point il est surcoté. Le seul joueur, franchement, c'est comme je le dis souvent, tu vois, des bons joueurs au PSG, vous en avez quand même pas mal. Vous avez Ouaro, même si bon, Ouaro, c'est un vrai bon joueur, même s'il est souvent blessé. Sako, c'est un vrai bon jeune joueur. C'est pas encore un bon joueur, c'est un bon jeune joueur, parce que des fois, c'est les craquages normaux, quoi. C'est comme Cristiano Ronaldo qui faisait ses gros craquages en tentant de dribbler tout le monde. Et ben, parfois, Sako, plutôt que de mettre un gros ballon.
Voilà, là, c'est bon, alors, j'allais introduire Loïc qui est nouveau sur la radio. Salut Loïc, est-ce que tu es là?
Oui, bonsoir, oui, je suis là.
Alors, tu étais au Parc des Princes apparemment, alors qu'est-ce que tu peux dire en plus par rapport au débat qu'ont fait Habib et Raled sur le match
de Barça-Auxerre?
Qu'est-ce que je peux dire, c'est que Paris est triste à pleurer cette saison, et c'est pas que depuis cette saison.
Ça fait... Voilà, là je suis d'accord.
Bien longtemps que ça dure, bien longtemps, ça fait une bonne dizaine d'années au moins, et je pense que la seule solution c'est de virer tout le monde là-dedans, y compris Corboiré. J'ai rien de spécialement contre lui, mais je pense qu'il apporte pas grand-chose à Paris. En termes de jeu, en termes de Paris n'a aucun fond de jeu, enfin ça se voit, je veux dire, c'est triste à pleurer à avoir joué.
Mais j'ai une question en fait pour toi. Est-ce que tu m'avais pas dit l'autre fois que t'étais fan de l'OM?
Oui, si, c'est ça. Oui.
Tu fais quoi au parc? Déjà, dis une.
De...
Qu'est-ce que tu fais au parc à samedi soir? T'es fan de l'OM?
J'étais pas au parc. Qui c'est qui t'a dit au parc?
Ah d'accord, j'ai entendu, tu étais au parc.
Ouais, moi aussi, j'ai entendu ça. Hein.
C'est ça. Donc c'est Aurélien qui trompe.
C'est Baptiste qui était au parc.
Excusez-moi, j'ai mal lu sur la conversation. Ouais. Mais c'est Louis.
Bravo,
qui
est Aurélien.
Tu es où, Baptiste? Oui. Moi, je peux entendre ce Baptiste.
Eh ben,
c'est moi.
Samedi soir, il est au parc, tu veux l'entendre, lui.
Baptiste, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le match au parc? Et puis veuillez m'excuser, j'ai mal compris dans notre conversation écrite. Baptiste,
vous m'entendez?
Oui, très bien.
Moi j'étais au parc en tant que supporter au Serrois, dans les tribunes de Paris, et j'étais là, déjà au parc il y a 3 semaines pour PSG Nice. Et pour moi c'est pas une équipe de Paris très très nulle, mais c'est une équipe qui manque cruellement d'efficacité, cruellement de confiance en elle. Et en défense il y a rien. Cette année il y a plus rien. Et a priori, enfin moi je suis pas un spécialiste du PSG, mais d'après vous ça fait plusieurs années. Moi, j'ai pas vu une équipe du PSG trop nulle.
Bah, si tu veux, ça a été un PSG plutôt très 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 solide et malheureusement sans. Non, mais c'est un PSG sans magie quoi, sans magie, sans fantaisie, sans.
Eh oui, Paris, c'est censé être
des athlètes.
Voilà,
c'est des athlètes. Ils courent.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est franchement. À part peut-être, peut-être Erding qui a essayé de faire quelque chose en attaque. Lou Indoula, super lent, il n'apporte rien. Lou Indoula, faut qu'il... Franchement, laisse tomber. Franchement, il y a quoi comme seul point... Le seul point positif au PSG, c'est peut-être Erding, quoi. C'est le seul.
Pourquoi Erding, ouais, il a bien joué, Erding. Ouais.
Il a essayé de poser des problèmes à la défense auxerroise, mais voilà, quoi. C'est le seul, malheureusement.
Ouais, mais il faut dire aussi que la défense au Serrois, elle est réputée cette année pour être pas mauvaise, et c'est même la meilleure de Ligue 1. Donc quand t'as l'attaque du PSG en face, c'est pas facile.
Non, mais même.
Et ce qu'on voyait surtout, c'est Erding qui a beaucoup décroché pour aller chercher les ballons très très bas.
Ouais, c'est ça.
Mmh. Qui montrait carrément que le PSG essayait pas de monter. Et j'ai trouvé aussi, il y avait Clément qui était pas mauvais.
Non, Clément a fait une super deuxième mi-temps. Par contre, en première mi-temps, il s'est endormi avec tout le reste de l'équipe. Mais en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Il a fait des bonnes montées avec la balle au pied. Il a essayé de monter le bloc parisien. D'ailleurs, c'est lui qui marque le but. De toute façon, il y a que Luc maintenant qui arrive à marquer des buts. Les attaquants, ils savent plus marquer aucune occasion parisienne. Mais voilà, quoi. Franchement, c'est... Moi, je suis dégoûté par cette victoire. Franchement, j'aurais préféré un match nul. Au moins, on reste là où on est. Moi, je l'ai dit au début de saison, à Roméo, lors du match nul qu'on a fait à Montpellier, j'ai dit que Paris sera même pas 5e, 6e cette saison. Hein. Je reste toujours sur mes positions. Et même 6e, je suis assez optimiste.
Hein. Ah bon? Non, c'est vrai que avant le début de la saison, t'étais pas trop confiant. T'étais un des rares Parisiens à qui j'ai l'occasion de parler qui était pas très confiant.
Voilà, mais franchement, on laisse trop de points lors des dernières minutes d'un match. Voilà, comme moi je trouve qu'on a notre place. On a l'un des plus mauvais bancs de Ligue 1. Ça aussi, faut le dire. Avec
franchement horrible le banc du PSG.
Ouais,
avec
vrai,
les baby losers là. En plus vos baby losers.
Les Maurice, les sans carrés.
Les Goyi,
tu sais les joueurs qu'on veut.
Ouais, c'est tous ceux sur lesquels Wenger a fait de la branlette l'autre fois lors du trophée Emirates en nous expliquant que c'était eux qui allaient envoyer la France en Coupe du Monde.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et il est où ton pote là, Mulumbuchi? Mulumbu Chelsea, là, tu m'expliquais que Mulumbu Chelsea le voulait, tout ça.
Moi?
Mm-hmm. Toi, tu faisais partie des nombreux Parisiens qui me l'expliquaient. Ah, non, les Mulumbu, Loris Arnaud, Yannick Bolli, tout ça, genre, c'était des mecs poursuivis par les plus grands clubs.
Ah non, bah non, bah, je crois que tu te trompes de personne, j'ai jamais dit ça de
si, Yannick Bolli, en tout cas, j'en suis sûr.
Non, ah, Yannick Bolli, c'est vrai.
Je te rappelle, je juste te rappelle un truc. Quand tu. Une question, un truc tout con, mais en Espagne, quand le Real Madrid. B, ça veut pas dire que le Real Madrid veut te recruter. Ça veut dire que le Real Madrid B veut te recruter. Ça, c'est quelque chose que vous. Non, non, ça, non, mais si. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas en France. C'est pas du tout pareil. Quand le Real Madrid achète Alipio, par exemple, du Brésil il y a 2 ans, c'est le Real Madrid qui le prend. Ensuite, ils le font jouer au Real Madrid B. Mais Yannick Bolli, il était destiné au Real Madrid B. Donc en gros, il était destiné à jouer amateur. Le Real Madrid n'avait aucune chance de le prendre.
Ah oui, mais bah oui, je vois mal. Je vois mal jouer. Non, mais moi, je vois mal jouer avec.
Non, mais ça veut dire avec... que, ça veut dire que les Madrilènes ne voyaient aucune, comment on va dire ça, aucune optique d'avenir pour Yannick Bolli au Real Madrid.
Je sais.
Donc tu vois, c'est vraiment le joueur de complément du Real Madrid B. Et voilà, en gros, ça, tu vois, c'est le meilleur exemple pour expliquer le surcotage des joueurs du PSG, parce que c'est pareil, hein, le Loris Arnaud, on expliquait qu'il y avait le Barça dessus. Ok, Barça.
Ah, moi, j'ai jamais vu Barça, mais bon, après, si toi, tu l'as vu.
Non, mais c'est en France, mais le problème, c'est que en Espagne, ils sont pas plus cons qu'ailleurs. Si ils entendent les Français parler de Loris Arnaud, ils disent, tiens, Loris Arnaud, c'est peut-être un bon joueur, donc ils vont le voir jouer. C'est juste qu'ils sont allés le voir qu'une fois jouer, quoi.
Oui, voilà, mais bon, bref.
Ils sont allés voir jouer, ils ont vu que c'était une grosse merde, ils sont jamais repartis.
Non, mais moi je te dis, le seul jeune pour moi qui mérite d'être dans l'équipe, c'est Sako. Voilà, c'est le seul jeune qui. Parce que même les chantômes, il faut pas. Moi je suis. Peut-être qu'il y en a, ils sont naïfs, mais moi, chantôme, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il est dans le groupe pro, 3 ans qu'ils font rien, quoi.
Chantôme, c'est aussi un gros surcotage.
Bah oui,
mais le problème, c'est que t'as toujours un. Là c'était Wenger en l'occurrence, mais t'as toujours un gros connard pour venir foutre la pression au club français. Wenger, quand il arrive et qu'il explique que cette génération elle est super forte, c'est exactement ce que fait Pelé à Freddy Adu en disant c'est mon fils. Ouais, le mec non, il lui a flingué sa carrière. Il lui aura, il aura. Wenger c'est pareil, il a flingué la carrière. On sait très bien que les jeunes joueurs ont en plus un boulard mais énorme. Là en gros il aura fait un compliment. Mais malheureusement, dans le système de fonctionnement en France, quand tu dis qu'un jeune joueur a du talent, ça, pour lui, il se dit « c'est bon, j'ai du talent ». Mais il ne dit pas qu'il faut bosser. Et ça c'est très très con, mais c'est toujours le cas en France. Les mecs, ils pensent qu'un mec comme Lampard ou Gérard, là, ils ne s'entraînent plus. Ah si, c'est continuer à s'entraîner parce qu'ils sont sérieux. Mais Chantôme, tu vois, moi c'est pareil, Chantôme, Mulumbu, tout ça, on m'explique que c'était super joueur, mais j'ai rarement vu un bon match d'eux, moi.
Bah moi aussi.
Franchement, j'ai rarement vu un bon match d'eux.
Bah moi aussi.
Même jamais. Aussi, ouais.
Voilà. Bah jamais non, mais Chantôme, personnellement, je l'ai jamais trouvé super nul. J'ai trouvé moyen tout le temps.
Ouais, voilà.
Après, c'est ça. Mais c'est pas un joueur plus de Paris. Ça. C'est tout. Hein? C'est comme Erding, quoi. Je veux dire, Erding est pas mal, on est d'accord. C'est peut-être celui qui s'en sort le mieux cette saison. Mais c'est l'attaquant du PSG, les gars. Est-ce que c'est ça qu'il faut au PSG, Erding? Je suis pas sûr, bah Chantôme encore moins quoi. Alors dans ce cas-là,
tu vois ce qui me fait sourire par rapport à ce que tu dis, parce qu'il y a un truc qui est complètement vrai, c'est qu'au final on se rend compte que c'est les Marseillais finalement qui ont plus de respect pour le club parmi les supporters en France. Bah ouais, finalement
c'est moi j'ai du respect pour le
PSG, parce que nous quand le PSG recrute Erding, on dit mais putain c'est le PSG, un phare du PSG. Alors que les Parisiens, ils sont là à dire « Erding, c'est super, c'est génial, Erding !» Mais non, putain, vous êtes le PSG.
Oui, mais surtout, pourquoi? Mais
vous êtes censé prendre des mecs au-dessus d'Erding. Erding, ça doit être genre le super joker. Genre le mec qui joue un match sur deux, un match sur trois. Mais là, pour vous, Erding, c'est la star, c'est le leader offensif. Et c'est pareil avec Chanto, Makelele, tout ça. Genre, c'est les meilleurs joueurs. Mais non.
Oui, mais tout simplement aussi... parce que Marseille, les supporters en rêveraient qu'un classique en France, ben il joue pour le titre ou tout du moins pour la Coupe d'Europe, quoi. Mais je veux dire, là c'est impossible avec un Erding devant, mais fais-moi rire.
Il y a Jérémy qui voulait conclure sur voilà, Paris Saint-Germain. Vas-y Jérémy.
Ouais, donc c'est pour dire ce que je pense moi du PSG de cette année. Ben, je vais me ranger du côté de Marvolo en sachant que Paris n'a pas fait un recrutement faramineux et que Camboiré, ben, à peu près comme Marvolo l'a dit tout à l'heure, c'est un entraîneur sympathique. C'est sûr qu'il a une meilleure image que Le Guen par exemple. Mais au vu des résultats, et Valenciennes, il a pas fait des miracles non plus. Certes, il a fait monter en Ligue 1, mais les saisons qu'il fait, c'est 17e et 13e. Et on voit bien que Montagnier, cette année, il n'y a aucun rapport avec ce qu'a pu faire Camboiré avant. Donc, Camboiré au PSG, je sais pas si c'est ça qui va pouvoir les sortir, ou plutôt les faire remonter dans le top 3 du classement. Surtout que Paris, ça date pas d'hier, les problèmes internes, les problèmes de gestion, tout ça. Donc pour moi, Paris cette année, ça va pas être du grand Paris, et ça devrait finir entre 5e et 8e au mieux. Et donc Khaled a été objectif là-dessus.
Khaled
a été objectif là-dessus et je m'arrange de son avis. Donc
Ben voilà, ouais. Ben on va en finir avec, je crois, le PSG, avec que je suis le PSG. Ça peut se faire qu'un jour pour le PSG. On en a fini donc avec Paris Saint-Germain-Auxerre. Merci à tous les participants pour ce débat et au nouveau Baptiste. On va pouvoir continuer. Alors on va passer à Lille qui confirme ses bons derniers matchs en écrasant au stade de 9-4 avec, je rappelle, un but de Gervinho, un doublé de Gervinho, un but de Fro et un but de Cab. Alors, est-ce qu'on peut dire, messieurs, que Lille est partie pour de bon et qu'ils vont remonter vers le classement et revenir à une place qui est plus adéquate à leur niveau, c'est-à-dire dans le top 7, top 5? Votre avis, Roméo?
J'ai l'impression que Lille va de mieux en mieux depuis que Rudy Garcia a compris qu'il avait un joueur qui s'appelle Gervinho dans son effectif.
Il a été énorme.
Et depuis, c'est... Hein?
Gervinho, il a été énorme. Il a fait un super
match.
Oui,
il a été exceptionnel. Et c'est vraiment... Mais il y a un potentiel offensif sur les ailes à Lille qui est vraiment bon. Avec Hazard, avec Gervinho. Et ça demandait qu'à exploser. Et moi, j'ai confiance en Lille pour aller chercher l'Europa League comme ils ont su le faire l'année dernière. Et même... puisqu'ils sont encore en course pour l'Europa League, dans les groupes de l'Europa League à l'heure actuelle, pourquoi pas faire un beau parcours dans cette Coupe d'Europe également.
Ouais, et puis on voit que ouais, t'as tout à fait raison, moi je suis d'accord avec toi. Romero, j'avais regardé le seul match de Lille que j'ai vu cette saison, c'était Lille-Marseille, et on avait vu sur ce match-là, Marseille-Lille, on avait vu sur ce match-là que si Gervinho avait commencé titulaire, Marseille c'est n'aurait clair. Pas du tout gagné le match. Alors que là, depuis qu'il joue titulaire, on voit vraiment que Lille a un visage différent, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League, où ils offrent vraiment un très très beau, très très beau visage. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah ça change clairement de Pierre-Emerick Aubameyang.
C'est clair. C'est beaucoup meilleur. Et puis même, on peut parler, même si beaucoup ici ne l'aiment pas, je pense, de Pierre Linfro qui joue,
apporte beaucoup. Buts,
ouais, ça, voilà, il est très bon. Je veux dire, c'est le retour de Pierre Linfro. Enfin, pour le moment, on retrouve un grand Pierre Linfro à Lille.
Lille, ce qui est surtout impressionnant, enfin pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est surtout qu'ils ont été dépouillés ces dernières années. Je veux dire, c'était une belle équipe à un moment donné. Et bon, Lyon, en partie, qui est passé par là, et ils se sont fait dépouiller. Et pourtant, moi, je trouve qu'ils arrivent à garder une solidité, ils ont l'air organisés au point. Et je trouve ça pas mal. Enfin, je veux dire, bon, là, ils remontent, ils vont être exceptionnels, mais je trouve ça pas mal.
Oui, et puis ils ont perdu Bastos cet été, et puis là on voit qu'ils recommencent à repartir. Ils ont vécu une grave crise interne qui les a gênés en début de saison, et maintenant ils jouent super bien. Ils pratiquent un beau football et ils battent des équipes comme Bordeaux. Ce soir ils écrasent Valenciennes qui était dans une super forme, qui a justement battu Bordeaux la semaine dernière. Donc je veux dire, pour la fin de saison, maintenant on les sent partis pour faire une très belle saison et remonter dans les hauteurs du classement. Donc voilà. Et puis Valenciennes qui connaît son coup d'arrêt, il faut quand même le dire, la meilleure attaque de Ligue 1 et qui était aussi une des meilleures défenses, qui prend quand même une sacrée claque. Donc c'est pas non plus C'est vraiment un très beau résultat de la part de Lille, parce que Valenciennes était en ce moment une très très bonne équipe. Comme tu disais, Roméo, la fois que j'étais avec toi, tu faisais l'éloge de Valenciennes et j'étais d'accord avec toi, et donc vraiment Lille a fait une très très belle performance. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose sur Valenciennes?
Moi, j'ai la sensation que Valenciennes, c'est une équipe qui peut faire le jeu, mais qui sait pas le fermer. Par exemple, quand il faut jouer défensif, Lille, ben, il n'arrive pas. Il faut qu'il aille. On voit le résultat, des fois ça marche, et des fois ça se prend 4-0.
Ok, et Jérémy, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, donc je vais revenir sur la question de départ, à savoir celle de Roméo, qui disait, est-ce que Lille peut... remonter petit à petit au classement. Faut oublier qu'ils ont fait un début de saison catastrophique avec des défaites pas toujours méritées, et ils jouent également en Europa League, donc ça laisse ils doivent mettre beaucoup d'énergie dans cette compétition, surtout qu'ils sont bien, ils sont bien partis pour passer en 16e. Ils sont bien partis dans leur phase de poule avec des belles victoires contre le Genoa, des bons résultats contre Valence. Là je regarde les chiffres de Gervinho. Il a mis 5 buts en Ligue 1 et 4 en Europa League. Ça fait 9 buts déjà avec Lille cette saison, déjà, alors qu'il a même pas joué tous les matchs. C'est un bon ratio, et c'est vrai que comparé au Aubameyang, il fait vachement du bien, et ça reste Lille. Je veux dire que c'est une équipe avec des joueurs comme Balmont, Obraniak, c'est des joueurs talentueux, techniques, bourrés de talent. Et très offensif, donc Lille en pleine forme, en pleine confiance, ça peut faire très mal, surtout que maintenant avec le retour de Landreau qui fait un très bon retour, c'est une équipe qui est solide de A à Z et qui pourrait pour moi facilement refaire son retard du début de saison.
D'ailleurs, il veut dire quelque chose. Gervinho, je voulais savoir à combien ils le prennent, Gervinho. 7, 8 millions, c'est ça, ou 5 millions, ou...
3 millions, quelque chose comme ça.
Moi, j'ai plus entendu 5 millions, un truc comme ça.
Je vais vous dire.
Je vais chercher ça.
Mais c'est par rapport à l'observation que je faisais avant. Voilà, c'est le genre de joueur qui aurait pu éclater et faire vraiment. Au final, voilà, ça signe toujours à Lille. Mais après, là où je suis absolument pas d'accord par rapport à Lille, c'est quand tu te dis qu'ils ont du mérite à toujours s'en sortir. Du mérite, excusez-moi, hein, quand Lyon vient mettre 18 millions pour Bastos, à moins d'être un incompétent fini comme Alain Roche, t'as quand même le moyen de renforcer ton équipe, hein, parce que. Quand tu vends ton meilleur joueur, si tu sais, et je dis bien si tu sais réutiliser l'argent, tu peux être gagnant à la fin. Moi, je le dis tout le temps, hein, moi, c'est plus des clubs plutôt comme Lorient qui m'impressionnent plus que des clubs comme Lille, parce que Lille, au final, ah bah, ils avaient 18 millions, il y a deux ans, quand ils vendent Bodmer et Magic Johnson à Lyon, ils récupèrent 25 millions d'euros. Il y a quand même plus de facilité à bien recruter qu'ailleurs. Donc non, pour moi, c'est pas qu'ils ont pas de mérite, parce que ce serait exagéré, mais ils ont pas tant de mérite que ça.
Non, c'est vrai que sur ce point de vue-là, t'as raison, mais ce qui est impressionnant avec Lille, c'est que chaque fois, ils se font piller, et chaque fois, ils recrutent bien, et pour pas cher, parce que tout à l'heure, tu disais Gervinho, ils l'ont acheté 8 millions... Mais on voit qu'il y a beaucoup de clubs cette année qui ont acheté en Ligue 1 des joueurs plus chers que ça.
C'est exactement ce que j'expliquais. Qu'ils recrutent bien, voilà. Parce qu'ils savent où recruter, parce qu'on parle de lui, mais on peut parler de Odem Wingi, qu'ils avaient acheté pour pas cher. On peut parler de Balmont, qui est super, super intéressant.
Ouais, non, c'est vrai.
Ils le prennent. Tu vois, donc évidemment, ils savent bien recruter. Mais bon, à la différence de beaucoup d'autres clubs astucieux, entre guillemets, en France, eux, ils ont déjà beaucoup d'argent à mettre sur les transferts. Mais beaucoup d'argent. Généralement, Lille, c'est quoi? 10, 15 millions de ventes par an. Vu que, de toute façon, t'as le meilleur Lillois qui part d'un frère à l'autre. Donc, pour moi, c'est juste sur ce point de vue-là que j'aimerais juste modérer. Et non pas dire qu'ils faisaient du mauvais travail, mais juste que comme ils avaient l'assurance d'avoir beaucoup d'argent, ben derrière tu sais que tu peux acheter.
Ouais, c'est vrai, mais il faut quand même nuancer en disant qu'il y a une partie de l'argent des ventes de transfert qui va dans le projet du stade, donc ils n'ont pas
non plus... Bien entendu, ouais. Évidemment, c'est pour ça que j'ai bien renuancé mes paroles, je les ai réexpliquées, c'est pour dire qu'évidemment ils font du bon travail, c'est une évidence, mais juste que de toute façon tu me dis une partie, on va dire que par exemple sur les 18 par le
Je sais pas si c'est en proportion, c'est exact ou pas, mais si on part du principe qu'il y a la moitié qui part pour le stade, donc 9 millions, et il reste quand même 9 millions pour recruter. Je pense pas que Lorient ou Valenciennes ont 9 millions pour recruter.
Du tout.
Vachement.
Du tout.
Ouais, non, non, évidemment. Non. Je me doute bien que Lorient, quand elle va prendre Koscielny ou que Valenciennes va chercher les fonds de tiroir, bah, évidemment, c'est pas. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais nuancer.
Non, mais tu as raison, et puis tu permets, je pense qu'on a fait le tour sur Lille, qui on va voir s'ils sont capables de confirmer leur bon match du moment pour faire une très bonne place cette année, et pourquoi pas se qualifier encore en Europa League comme l'an dernier, ou aller te voir plus loin, même si maintenant ils sont un peu loin, parce qu'ils ont, au début de saison, ils ont perdu des points, mais vu qu'en haut ça avance pas, donc on sait jamais. Donc on va pouvoir passer au match suivant, et comme tu disais, Habib, on va passer à Lorient-Grenoble. Alors, Lorient-Grenoble de partout avec, un but de César contre son camp et de Gamero pour Lorient et Matsui et Juan pour Grenoble. Alors Grenoble qui a bien failli, je n'ai pas vu le match, mais Grenoble qui a, j'ai vu un petit résumé et tout, qui a bien failli obtenir sa première victoire de la saison, et ça aurait été mérité puisque pour avoir vu tous les buts sur le premier, il y a hors-jeu de Lorient, pour Lorient, et donc le but n'est pas valable, et donc on ouvre le score également. Voilà, et sur l'égalisation lorientaise, il y a également hors-jeu de Gamero, enfin de Marshall, et c'est Gamero qui marque, mais il y a hors-jeu de Marshall. Donc voilà. Et celui qui écoute la radio pourrait-il éteindre sa radio, s'il vous plaît. Merci. Et donc oui, il y a hors-jeu de Marshall. Donc normalement Lorient aurait dû perdre. Alors dans les prestations, donc Grenoble apparemment a bien joué et aurait mérité le point. Donc c'est dommage pour Grenoble. Lorient, oui. Soir, on s'en sort bien. Et sur les buts que je viens de voir, franchement, on aurait Audard ce soir. La semaine dernière, nous a fait gagner face à Saint-Etienne. Ce soir, Capone. Il était blessé et pouvait pas jouer. On voit vraiment la différence parce que Capone, oui, comme tu dis, Jérémy.
Hors sujet.
Putain, mais toujours.
Si tu te rappelles l'année dernière, le but que vous prenez contre nous, égalisation. Où il pleuvait, il a relâché la balle. Oh là là. C'est n'importe quoi.
Mais c'est toujours le cas avec Capone. Hein. Je veux dire, ça fait un moment. Voilà. Autant Audard est magique, autant quand Capone.
Et la sortie de Lecrom aussi.
Parce qu'on parle. Voilà. Que je critique mon gardien, mais il faut quand même noter que sans la sortie de Lecrom à la fin. Du match, Lorient n'aurait jamais égalisé, Gamero n'aurait jamais marqué son 7e but en Ligue 1, donc voilà. Mais en tout cas, Lorient, soir, on s'en sort vraiment bien, on prend un bon point, on est 2e provisoire pour l'instant en attendant les matchs de Lyon, Bordeaux et Montpellier. On aurait pu prendre la première place, c'est dommage, ça aurait été super sympa, cool, enfin voilà, c'est dommage. Mais bon, voilà, par rapport à ce qu'on a fait, on fait une très très bonne opération, et puis voilà, on va aussi parler de Grenoble parce que comme ils ont bien joué et tout, donc Grenoble qui, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais qui aurait soit mérité de prendre un point et qui semble se retrouver et qui peut-être, ça semble être compliqué pour le maintien, mais en tout cas va être compliqué à jouer pour la fin de la saison. Hugo, tu veux dire quelque chose sur Grenoble peut-être?
J'ai une sensation que Grenoble ils vont se sauver. Franchement, tu regardes les 5 derniers matchs. Il mérite au moins de gagner 2, voire 3, et
là, je suis en équipe. Oui, mais les gagnent pas.
Ah, mais ça va venir, au bout d'un moment,
parce qu'au niveau comptable, c'est pas ça, quoi.
Bah, sur le point comptable, tu regardes, il y a l'écart entre le premier relégable et 6 points.
6 points? Ouais, c'est vrai, c'est encore jouable.
C'est jouable, quand on joue sur le niveau qu'il y a devant. Je me dis que c'est possible.
Ouais, bien sûr, mathématiquement c'est possible, mais ils ont fait tellement un début de saison assez catastrophique, ils ont toujours pas de victoire. Après, faut enchaîner une série, ouais, pourquoi pas.
Moi, je veux bien Grenoble, offensivement, au milieu de terrain, ça va, c'est pas ridicule, mais c'est défensivement qu'il y a un problème. Ça fait peur défensivement. Ils encaissent des buts de gag. Le but contre son camp de César ce soir, mais c'est un but, un des 5 buts de coq de l'année. C'est pas possible de marquer César, des buts comme ça. Après Chad Gemali, il y a celui de César, ça fait beaucoup. Bon, Grenoble sont pas passés loin. J'ai encore un peu de la peine pour Bazdarević quand je vois sur le banc, après l'égalisation de Lorient dans le temps additionnel. Je sais pas comment ils vont faire. Enfin, je vais pas me leurrer, pour moi c'est mort pour eux, mais... Pour l'honneur, même si en jouant plutôt bien, ils arrivent toujours pas à gagner. Je sais pas ce que ça va donner. Mais...
Ah, c'est vrai. Moi, j'y crois plus. Mais Hugo, t'as dit 6 points de retard sur le premier non relégable pour Grenoble.
C'est 10 sur Saint-Etienne.
Oui, c'est 10.
10 sur Saint-Etienne, alors que Saint-Etienne a un match en moins. Non, non, moi je suis désolé.
Ah, mais c'est mort, c'est deux, mort.
Trois clubs, même cette année, il y a Le Mans, Grenoble et Boulogne qui sont vraiment en dessous. Et à moins de, à moins d'un, d'un sursaut d'orgueil.
Il y a déjà un écart qui s'est fait.
À la rigueur, peut-être un des deux, mais Grenoble, c'est fini. C'est fini. On a la 14e journée, il y a 24 journées. C'est impossible que Grenoble revienne et se sauve. Non.
Non, on est bientôt en demi, non, on est bientôt en 2010 et il n'y a aucune victoire, quoi. Il n'y a aucune victoire.
Non, 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 c'est fini.
À part comme, non, à part comme t'as dit, Roméo, à part, comme Sochaux l'avait fait il y a deux ans, ils étaient, tout le monde était condamné. Ils se sont trouvés, Sochaux, mais.
Non, mais, non, mais là, Khaled, c'est 3 points en 14 matchs. C'est aucune victoire en 14 matchs.
Non, non, je suis d'accord avec toi,
c'est,
mais.
C'est incroyable, quasiment de 2 buts encaissés tous les deux par match. Tu peux pas te maintenir.
Non, mais la logique veut qu'ils aillent en Ligue 2, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr que la logique veut qu'ils aillent en Ligue 2, ça c'est sûr, hein. Je vais pas te contredire là-dessus. Mais tu sais, dans le foot, on a vu tellement de choses que.
Non, mais.
Ça m'étonnerait pas. Ouais, non, mais attends. Il reste le mercato, le mercato hivernal, ils peuvent peut-être prendre 2-3 recrues.
Non.
Et même,
si tu veux, tu vois, c'est Messi, Cristiano Ronaldo et Buffon.
C'est clair.
Parce que malheureusement, si Grenoble prend 2-3 recrues, tu vois, ça va être Moussilou, Moulogne.
Déjà pour eux, il faut vraiment solidifier la défense, parce que la défense, voilà quoi, faut acheter des renforts défensifs. Et voilà quoi, et peut-être un attaquant supplémentaire.
Comme le dit Yak, en réaction, qui me dit que 24 journées, 40 points à prendre, c'est un parcours d'une équipe qui finit en Ligue des Champions. Tu vois Grenoble avoir ce parcours avec l'effectif qu'a Grenoble, la mentalité de jeu qu'ils ont, et surtout ils ont pris un gros coup au moral avec
j'ai même envie de dire que Grenoble, ils ont pour pouvoir se sauver, il va falloir que soit Saint-Etienne, soit Nancy, soit Lens, soit Sochaux s'écroule complètement, ce qui est quasiment impossible. Ces quatre équipes ont bien plus de talent, bien plus de qualité que Grenoble. Et on l'a dit tout à l'heure, ils ont plus de 10 points d'avance. Grenoble, il aurait fallu un électrochoc bien plus tôt. Là, on est déjà 15 journées, ouais. 3 points en 15 journées, c'est vraiment, c'est du jamais vu. Et c'est l'équivalent d'une victoire, vous vous rendez compte?
Mais bon, moi, ouais. je reste sur mes positions. Dans le foot, on sait jamais.
Voilà. Ça, non, Khaled, et un minimum de bon sens quand même.
Oui, j'ai un bon sens, mais on a vu des miracles.
Tu penses Grenoble capable de prendre 40 points en 24 journées?
Non, j'avoue, non.
Voilà, t'as ta réponse.
T'as raison, c'est vrai. Quand tu m'as sorti les chiffres, t'as raison.
Ils sont mignons, mais 3 points en 14 journées, c'est, voilà, quoi. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de résumer la situation grenobloise. Tu peux pas passer d'une équipe qui est la plus mauvaise de Ligue 1 à une équipe qui a un rythme d'équipe qui joue l'Europe, c'est impossible.
C'est clair. C'est impossible. Non, mais t'as raison. C'est vrai. Là, t'as dit un argument qui m'a convaincu.
Non, mais là, ils ont accumulé trop de retard.
Mais moi personnellement, je vois pas Grenoble rester, je suis d'accord avec vous sur ce que vous disiez, mais par contre, vous allez tous me dire, mais non, qu'est-ce que tu dis et tout, mais je pense que Lorient va s'écrouler et qu'on va descendre en Ligue 2. Mais voilà,
Lorient, c'est mon avis. Mais non, ce que tu dis. Non, pas Lorient. Lorient, c'est, non, tu peux pas tirer Lorient de la Ligue 1. Lorient, c'est l'astuce à la française. Mais c'est vrai, en plus, tu vois, c'est pourquoi c'est le. Non, non, mais parce que pour moi, Lorient, c'est l'équipe qui représente la bonne façon de travailler en France, tout simplement.
C'est vrai.
Ils n'ont pas d'argent, ils recrutent bien, c'est beau en plus avoir joué. Donc voilà, j'ai pas de d'inamitié particulière par rapport à des clubs comme Boulogne ou autre, mais bah, je préfère 10 fois plus que ce soit Boulogne qui reparte en Ligue 2 que Lorient. Pour les
il y a assez de ch'tis en Ligue 1 en plus. Hein.
Non, ça je m'en fous, ça qu'il y ait des ch'tis ou pas. On s'en fout un peu. Quoi. Moi, si je pense que Lorient, c'est quand même à sa façon un exemple à suivre.
C'est vrai, mais je sais pas pourquoi. Moi, enfin, je voulais le dire. J'ai vraiment un mauvais sentiment. J'ai peur que la fin, ce début de saison soit trop beau et qu'on s'écroule. En fait, j'arrête pas de penser à Strasbourg qui avait fait un super début de saison et qui s'était.
Non, mais là, Strasbourg, c'est que c'est le bordel. C'est le bordel avec.
Ça sentait que c'était en
président. Ouais, de toute façon, c'est.
Non, on verra bien, mais c'est la situation
actuelle. Non, mais ce que je voulais te dire, c'est que quand tu vois la situation actuelle de Strasbourg, eh ben voilà, tu comprends mieux pourquoi ça marche pas et pourquoi ça n'a pas marché. Alors que Lorient, j'ai pas vraiment de souvenir, si tu veux, d'un article où on expliquait que c'était la merde entre les dirigeants, que le directeur technique plutôt ne supportait pas, tu vois, le truc typiquement la Marseillaise, le Dubiton qui va se prendre le chou avec.
Non, mais franchement, voilà. Franchement.
Du tout. Non, mais
c'est surtout, pour moi, non. Pourquoi le point de vue. Je pense qu'en fait, tu essaies de balancer un contre mauvais œil pour qu'il finisse en Europa League. Ou... Non. Je te vois bien.
Peut-être.
Ouais. Surtout avec Gourcuff, non. Gourcuff, c'est un très bon technicien, tacticien. Tout ce que tu veux, je les vois pas s'écrouler. Je les vois pas non plus finir chanteur ou je sais quoi, mais je les vois pas s'écrouler, sincèrement. Je pense qu'ils vont terminer dans le haut du classement.
Et en plus, au-delà de ça, ils ont pas d'énormes individualités. Tu vois, c'est pas comme, bon, allez, 90% des clubs de Ligue 1 qui, si jamais il y a un joueur qui se blesse, ils sont dans la merde.
Non, là, c'est vraiment
Gamero. Franchement, quand on me dit Lorient, à part Gamero, tu vois, que je mets un petit peu au-dessus des autres, bah, il y a beaucoup de bons joueurs, enfin, de bons joueurs de Ligue 1, on s'entend, mais il n'y a pas vraiment de stars, quoi. Donc, pour moi,
non. Non, mais je livrais juste une pensée sur le moment. C'est comme ce soir, j'étais persuadé qu'on allait perdre contre Grenoble et finalement, ça n'a pas été le cas.
Franchement, je juste pour, voilà, pour dire. T'as la chance d'avoir un club qui.
Comme on était sur la part pronostic, voilà.
Non, et on gardera ton pronostic inhumain pour la fin. Hein.
Mais je ne le souhaite pas du tout. Hein. C'est
on prendra qui. Non, mais. Non, mais... Voilà. Non, mais. Aurélien, seules trois personnes peuvent comprendre de quoi on parle. C'est pour ça qu'on va. On va pas trop s'y prendre dessus.
Bon, on peut le sortir quand même, hein. On peut le dire parce que c'était. On le dira tout en temps et heure, quoi. Mais ouais.
Voilà.
Franchement, c'était monstrueux ce qui s'est passé tout à l'heure.
On
a bien spoilé tout le monde. Tout le monde est là, mais qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui se passe?
Ils vont ramener tous leurs potes.
Vous le saurez d'ici quelques minutes. Hein.
Voilà.
Voilà.
Donc, on va passer à Marseille, hein.
Non, on va passer à la victoire de Toulouse sur Boulogne-sur-Mer, un but de Fofana, et comme on a Jérémy avec nous, Jérémy va pouvoir nous en parler, s'il te plaît.
Essaye de mettre un petit peu d'entrain, parce que déjà c'est.
Ouais, non, mais. En plus, c'est pas la prestation livrée.
Je sais que ça va pas faire rêver, mais essaye de nous faire rêver.
Cette victoire, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on a été franchement. Assez inexistant en seconde période, on a joué bien 30 minutes.
Dis que la fantaisie, dis pas que c'est l'âge qui perd la fouet, dis que la Ligue 1 c'était cool, dis que Sissoko il a des super mollets, je sais pas, trouve un truc.
Je vais essayer d'être objectif, on verra pour le reste après. Donc ouais, je disais, Toulouse qui d'entrée a mis la main sur le match, qui a dominé sans problème cette équipe de Boulogne. Autant techniquement que tactiquement, avec des bonnes actions. Le but de Fofana, il vient concrétiser cette domination. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que quand on mène 1-0 contre Boulogne, et qu'on s'appelle le TEF et qu'on joue à Toulouse, à domicile, on n'a pas le droit de jouer comme on a fait en seconde période, c'est-à-dire on se faisait des petites passes en défense pour attendre que l'arbitre siffle la fin du match. On n'a pas le droit à ça. On avait Tabanou, on avait Bratton, on avait Sissoko, on avait Gignac ce soir aligné. On n'avait pas le droit de jouer défensif comme on l'a fait. Je comprends pas, je sais pas ce qu'a dû leur dire Kaza à la mi-temps, mais c'est franchement dommage. Pour moi, c'est du gâchis complet ce qu'on est en train de faire là avec. On a sûrement la meilleure équipe de l'histoire du TEF, une des deux meilleures équipes de l'histoire du TEF. On a un effectif complet, on a un effectif solide, on a un banc assez bon. Je sais pas. En plus, le pire, c'est que quand on veut vraiment jouer, on y arrive. Et quand on joue bien, on arrive à marquer des buts. Ce soir, Boulogne, On aurait pu remettre 4-0 si on aurait joué avec de l'envie. Au lieu de ça, on s'est mis en danger, on s'est exposé à des contres bêtes. D'ailleurs, à l'image de la grosse blessure de Pelé, sur un contre à la fin du match, il est obligé de sortir dans les pieds de Moussilou et il s'est fait mal au genou, donc j'espère que ça peut être trop grave, mais voilà. Si on jouait libéré, si on jouait l'attaque tout simplement, on aurait marqué plusieurs buts ce soir et on se serait jamais fait peur comme sur la sortie de Pelé, donc c'est vachement dommage et j'espère que Casanova va vraiment comprendre que pour gagner des matchs pour faire une bonne saison, il faut jouer offensif, quoi. Donc je suis dégoûté ce soir, même si on a gagné. Quand j'ai vu les premières minutes du match, je me suis dit c'est bon, on va mettre une raclée, mais non. Et comme d'hab, en deuxième mi-temps, on baisse de rythme et c'est triste à voir.
Putain, toi, le jour où Toulouse se mange 5-0, je t'appelle direct. Je veux savoir, est-ce que tu peux aller plus bas au niveau de l'entrain?
Ouais, non, mais ce soir, je suis pas heureux, mais même si on a gagné...
Ah, ça, je m'en doute que t'es pas heureux. C'est pour ça que je me dis, putain, le jour où vous perdez 4-0, tu tranches les veines, quoi.
Non, en plus, je suis de nature assez molle. C'est ça. Non, mais en plus, ce soir, on revient à 5 points du leader, même s'il y a des matchs qui vont se jouer demain. Donc, comme ça, à première vue, on peut penser que Toulouse fait un début de saison pourri. C'est d'ailleurs ce que j'en pense, avec 5 défaites déjà. 5 défaites, c'est le total de défaites qu'on a eu la saison dernière, donc c'est pour dire s'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre l'année dernière et celle-là. La confirmation est plus difficile que prévu. Et j'aimerais revenir sur la prestation de Gignac, qui a été très mauvaise. Je vais pas me cacher, il a fait 20 premières bonnes minutes avec une frappe dangereuse, mais par la suite il a raté des trucs, mais des contrôles approximatifs, des frappes totalement hors sujet. Donc voilà, j'espère que Gignac va vite se remobiliser parce que c'est plus trop ça. Il a l'image de ses deux prestations contre l'Irlande, très 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 irrégulier en ce moment et c'est quasiment mort pour le titre de meilleur buteur, même si on s'en doutait avant ce match-là. Donc, je sais pas s'il y a des réactions.
Ouais.
Tu nous as tués.
Savoir.
J'aime bien, c'est les fameuses blagues à Roméo où il se rigolait à ça. Non, non, mais ce que je comprends pas, c'est juste un peu la morosité, parce qu'au final, c'est quand même une victoire. Alors, je sais que t'as les bien penseurs du foot qui t'expliquent que c'est pas bien de gagner si jamais c'est pas solide, mais ponctuellement, si ton équipe gagne en faisant du mauvais jeu, c'est pas non plus, une mauvaise chose. Sauf si toi, évidemment, tu vois que c'est peut-être lié à un problème à long terme, enfin, ou plutôt un problème qui date pas d'aujourd'hui.
C'est ça.
Mais,
c'est
plutôt pour ça que tu es,
Oui, déjà ce matin, dans mon lit tranquille, je pensais au match. Je me suis dit, franchement, avec la fébrilité de Boulogne et ce qu'on est en train de faire en ce moment, même si on avait perdu à Nice, je me suis dit, j'espère qu'on va pouvoir mettre 2-3 buts et vraiment se relancer, mais vraiment se relancer dans ce championnat. Et quand je vois la prestation, ce qui est dommage, c'est que sur 40, là, une mi-temps entière de ce match, quand on regarde le porteur du ballon toulousain, il y a aucun mouvement autour de lui, aucun démarquage. Le porteur, il est là, il attend, il se dit mais à qui je passe la balle, donc il balance devant. Quand on voit le Barça, t'es en mouvement, mais on aurait l'occasion de le faire ça. On a les joueurs on a les joueurs techniques, on a des joueurs qui ont une bonne vision du jeu, on a Dido, on a Machado, on a aussi l'apport physique avec Sissoko, avec Capou, mais je sais pas ce que Casanova leur fait faire à l'entraînement, s'il les fait mal travailler, mais c'est dégoûtant. Avec le potentiel qu'on a, si on met un bon tacticien à la tête de ce club, mais c'est totalement différent. J'aime bien Casanova, j'aime bien ce qu'il a fait l'année dernière avec le club, mais on va pas pouvoir continuer comme ça. Gagner un Boulogne 1-0 contre Boulogne à domicile, il n'y a rien d'extraordinaire, surtout sur un coup de pied arrêté. On n'a pas été foutu de marquer un but dans le jeu, donc
Là pour le coup je suis pas d'accord avec toi. C'est vraiment ce que je parlais tout à l'heure, les moralisateurs du foot qui t'expliquent que si tu marques sur coup de pied arrêté c'est pas bien.
Non, non, au contraire.
Il me semble que Bordeaux, tu vois, tu...
Ouais, il... oui. Je suis totalement d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi.
Donc, et en plus, le truc, tu sais, c'est, je vais t'expliquer un truc tout con, et que vous pouvez tous vérifier, on dit tous, par exemple, oh, les buts contre son camp, c'est de la merde. Si ton équipe gagne la Ligue des Champions sur un but contre son camp, mais tu vas être heureux, comme tous les autres.
Grave.
Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, oui, si de temps en temps ton équipe joue mal, ah bah, tu t'en fous. Parce que je préfère quand même voir mon équipe jouer mal et gagner. Si c'est, évidemment, quand je te dis jouer mal, c'est pas non plus un penalty fantôme, parce que là, c'est autre chose. Mais bon, si mon équipe joue mal de temps en temps, c'est pas grave.
Voilà,
bon,
non, mais je te comprends.
C'est facile de dire ça, parce que moi je suis fan de Marseille, puis je joue grosso modo tout le temps mal, tu vois, donc c'est tout le temps mal, mauvais quasiment, mais voilà, faut pas être...
Oui, non, trop, plus, trop, ouais. Plus avec les... Oui, non, je suis d'accord avec toi.
Après, moi je comprends l'attente que tu as, parce que
voilà,
c'est vrai
ça.
Que Toulouse, je suis même pas sûr que Toulouse ait déjà gagné un titre.
Oui, on a gagné une Coupe de France, mais c'était les années 40, donc...
Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis, ils ont pas de titre récent, donc... Après, je peux comprendre. Prendre ton attitude, apparemment le meilleur effectif de l'histoire de votre club, mais faut pas non plus être trop dur, quoi. Faut
oui,
pas
non, mais c'est sûr que j'ai levé les bras quand l'arbitre a sifflé à la fin. Surtout que Toulouse qui marchait en coup de pied arrêté, c'est vachement rare. C'est d'ailleurs un point faible de l'équipe. On a des bons tireurs, mais on n'arrive jamais à marquer sur coup de pied arrêté. Le dernier but sur corner de la tête que met le TEF, je crois que ça remonte à la saison 2006-2007. Donc c'est pour vous dire le problème qu'on a dans ce domaine-là. Et c'est vrai que non, je veux pas faire l'idéaliste, marquer sur coup de pied, c'est pas bien, mais comme tu l'as dit, j'avais des attentes sur ce match-là et je suis déçu comparé à ce que j'espérais. Et c'est pour ça que ça me déçoit, cette victoire, certes, mais cette victoire sur le plus petit des scores me déçoit malgré les 3 points qui étaient quasiment indispensables. Donc ouais. Et à noter aussi la blessure de Pelé, donc que je disais tout à l'heure. Entre sa
suspension. Les bons gardiens de Ligue 1.
Alors là,
je pense que Moussilou, là, je crois qu'il n'empêche, on dit ça, mais si on y réfléchit bien, Moussilou, il a trouvé le moyen de relancer les buts en Ligue 1. Hein. Si tu blesses les meilleurs gardiens,
Non, c'est franchement dommage. Parce que...
C'est dommage, ouais.
Il y a rien.
C'est pas la première fois. Déjà, il s'était blessé en début de saison, enfin, à l'intersaison.
Voilà,
plutôt.
Tout à fait. Il s'était blessé entre les suspensions, entre les blessures.
Lui, c'est vraiment un gardien qui a loupé un palier parce que il y a 2-3 ans, on expliquait qu'Arsenal était dessus. C'était un gardien qui faisait des super performances. L'an passé, il était même pas titulaire tout le temps. Apparemment, il y avait eu un problème avec comment il s'appelle déjà, Jean Dupeux, il me semble, au Mans. Pardon ?
Exact.
Oui.
Mais je me rappelle plus trop pourquoi, mais je me rappelle qu'il y avait un problème. Et voilà, c'est sans faire un jour à Toulouse, tu vois, c'est plus un gardien qu'on attendait de voir dans les tout grands et les meilleurs clubs français. Bon, c'est mal,
sûr que lui, Toulouse, c'est
une des forces émergentes, tu vois.
Mais, c'est un peu en envoi, ouais.
Mais il a pas quand de chance, ce gars-là, quand même.
C'est clair, quand on l'a vu débarquer à l'intersaison, c'était un peu inespéré pour nous. On venait de perdre Carasso. On a toujours eu des bons gardiens à Toulouse et voir Pelé signer un club en sachant qu'il était en fin de contrat. Voilà. Donc il pouvait aller bien plus
loin. Il a la signature. C'est 2 millions
et
il
a la signature. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qui nous a dérangé. On sait que Pelé, c'est un joueur qui a plutôt le melon. Mais bon, les prestations qu'il nous fait là, ce début de saison, il est tout simplement énorme. Mais c'est vrai qu'entre les blessures et la suspension qu'il a pris contre Marseille, on a du mal à trouver une stabilité en défense. J'ai les stats sous les yeux. En Ligue 1, Blondel a joué autant de matchs que Pelé, c'est-à-dire 8. Donc ils ont joué, enfin 8 apparitions les deux. Entre Blondel qui a dû remplacer Pelé à Marseille, tout ça, et entre les charnières avec la blessure de Congré, avec la blessure de Seto, le retour de Fofana. Ce soir, nous que Fofana, c'était de l'inédit. Bon, ils sont bien débrouillés. Et d'ailleurs, je suis content pour Fofana qui marque pour son retour. Ça fait vachement plaisir de le revoir jouer. Et on va enfin retrouver.
Ah, tu vois qu'il y a du positif dans ce match-là.
Il y a du positif.
Il fallait juste te faire parler, en fait, pour que tu trouves du positif.
Et ouais. Non, mais voilà, on a 21 points. C'est plutôt pas mal. On a 5 points d'Auxerre, même si demain Bordeaux joue. Et Casanova l'a dit, entre 25 et 30 points à la trêve, ce serait une bonne chose. Donc on est bien parti. Avec le derby contre Bordeaux à la dernière journée de décembre. Donc ça va être intéressant, tout ça. Et j'en ai fini.
Je crois qu'on a fait le tour sur Toulouse-Boulogne-sur-Mer, qui avait l'air d'être un match passionnant. En tout cas, merci Jérémy. Donc on va pouvoir passer un match tout aussi passionnant qui nous a passionné tout à l'heure. Je le suivais avec Habib et Roméo. Franchement, c'est... Ah, c'était magnifique quand même, Habib et Roméo. Hein. Le Lens qui a battu Marseille 1-0, mais franchement, ça aurait pas pu être pire.
On a oublié Sochaux.
Ah, on a oublié Sochaux, mais on va passer à Sochaux. Il faut parler de Sochaux. Il faut parler de Sochaux. Excusez-moi. C'est Roméo qui veut absolument que je fasse un quiz. Donc, je suis en train de faire le quiz, en train de faire l'émission. J'y arrive pas. Donc, on va parler à Sochaux qui a battu 1-0 Nice, un but du Tunisien Mikari. Donc, Sochaux qui regagne à nouveau.
Un but qui fait polémique. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais...
Bon, c'est... Ah oui,
c'est pas parle-nous-en, vu que t'as commencé. Vas-y, parle-nous-en, vu que t'as commencé.
Donc c'est une frappe de Zverkov repoussée par Ospina et c'est j'ai un trou là, c'est je sais plus qui Mikari voilà qui tire
Mikari.
Une reprise de volée qui touche la barre. En fait, c'est un peu le même but qu'avait mis Pujol contre Rennes avec cette frappe qui touche l'équerre qui rebondit sur la ligne, on sait pas trop. Avec les ralentis que nous a proposé Sport Plus, c'est assez difficile à voir. Moi à première vue, je dirais que non, il y a pas but.
Moi aussi.
Donc je sais pas.
Moi aussi. Moi, je dirais qu'il y a que, moi, je dirais qu'il y a que 3/4 du ballon qui rentre, mais comme la règle veut que le ballon rentre à 100%, pour moi, il n'y a pas but.
Oui, ben, c'est ce que je dis aussi, pour moi, il n'y a pas but.
Ah ouais, c'est ça.
D'accord. Ouais, ben, donc c'est pour ça, donc.
Mais bon, à vitesse réelle aussi, ouais, ça va très très vite et.
C'est quasiment impossible. Ouais.
C'est comme l'année dernière quand le but de Cessignon a été refusé contre Valenciennes au Parc, j'étais au Parc en plus pour ce match-là. La balle était largement mieux rentrée que celle de ce soir et le but a été refusé et là pour le bonheur de Sochaux, il a été accepté. Après je sais pas si la physionomie du match Sochaux mérite sa victoire. Mais bon voilà quoi, mais d'après les images le but devrait être refusé.
Non mais concernant ce but, c'est ce qui est plus reprochable, ce qui a reproché à l'arbitre, c'est surtout que c'est impossible physiquement que le ballon rentre. Le ballon tape la transversale et rebondit sur le poteau extérieur.
Oui, mais des fois
je te parle pas après avoir vu plusieurs ralentis, mais le ballon, il tape directement le poteau extérieur.
Ça voudra dire qu'il n'a pas franchi la ligne.
Voilà. Et en plus, en phase de doute, l'arbitre doit pas dire but. S'il a un doute, il accorde pas le but, de toute façon, l'arbitre.
Et juste pour revenir à ce que disait Raed tout à l'heure, moi j'ai pas vu le match non plus, mais j'ai regardé les statistiques. Et c'est apparemment un but qui peut faire un hold-up pour Sochaux parce que Nice a eu 22 tirs et 9 contre 13 seulement pour Sochaux. Donc ça casse la bonne série de Nice qui restait sur 4 victoires d'affilée.
Ouais.
Mais bon, ça permet aussi à Sochaux de se relancer, même si c'est un but pas très académique. Je pense que ça doit bien leur faire plaisir de reprendre 3 points. Et je sais pas comment ils sont, je regarde... Sochaux 14e, donc ils remontent à la 14e. À 18 points, 14e.
De toute façon, cette saison, pour les équipes du bas de tableau, chaque point est bon à prendre, hein, de n'importe quelle façon, malheureusement, que ce soit un hold-up ou que ce soit un penalty injustifiément sifflé. Voilà, comme malheureusement, maintenant, tous les moyens sont bons pour marquer un but et c'est pas les Sochaliens qui vont faire la fine bouche. Voilà.
C'est sûr.
Voilà.
Enfin, pas que cette saison, hein, Khaled. Parce que tu as commencé par dire cette saison. Non, pas que cette saison, ça a toujours été le cas.
Oui, ben bien sûr, oui, voilà. Non, mais...
C'est malheureusement... C'est pour ça que tu vois, c'est plutôt... Excuse-moi. Je sais pas ce qui lui a pris à la gorge. Je disais que c'est pour ça un petit peu que tout à l'heure, Rognetto disait qu'il avait gagné mais qu'il était pas content. Tu as 3 points. Même si la performance n'est pas exceptionnelle, il y a quand même des motifs à satisfaction. Et d'ailleurs, on a cherché, on en a trouvé. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. C'est par rapport à un petit peu les clubs qui eux luttent pour le maintien. Bon. Tu prends 3 points une fois de temps en temps comme toi, c'est pas grave.
Ouais. Et d'après ce que j'ai entendu, non, mais d'après ce que j'ai entendu dans ce match, il y a eu un autre fait de match. Il paraît que Loïc Rémy a été gravement blessé.
Ah. Ouais, il a une entorse. Il aurait une entorse. Je crois à la cheville ou un truc comme ça. Donc ah non, il s'est blessé au genou, pardon.
Ouais. Et, est-ce que tu aurais des précisions, Hugo, sur ça?
Ce qui paraît, c'est très sérieux.
Ça a commencé par une entorse à la cheville et maintenant c'est très sérieux au genou.
Et bientôt on va monter jusqu'au.
D'ailleurs, ça peut être les deux. Ouais, en parlant de blessure grave, je sais pas si vous avez lu ce qu'a écrit Armand, mais que, en gros, il dit que quand Coupet est tombé, il a vu l'os dépasser de la chaussette.
Ah, bien sûr, ouais. Oh, l'image est terrible, ouais. L'image est terrible. Mais en plus, surtout, c'est que cette blessure, elle arrive à un très très mauvais moment pour Nice, parce que quand on connaît toute l'importance qu'a Loïc Rémy dans cette équipe niçoise, c'est le seul moteur offensif de cette équipe. Maintenant, je sais pas comment on va faire pour essayer de gagner des matchs.
C'est vrai, Bakayoko, il est pas très en jambe en ce moment, donc, Rémy, c'est d'autant plus les buts, mais c'est aussi les passes, c'est les dédoublements, c'est lui qui remonte quasiment tous les ballons. Parce qu'il faut pas oublier que Rémy, à Nice, il joue pas vraiment attaquant de pointe, il joue, il est droit, donc, il a déjà mis 7 buts.
On parlait des autres buteurs niçois, tu vois, il suffit de voir que le deuxième meilleur buteur, c'est Ben Saada qui a 2 buts, quoi.
Ouais.
Toi, Alex Chouki Ben Saada.
Ah non, mais ne me parle pas de ce joueur parce que c'est une grosse déception. Hein. Tous les Tunisiens qui me parlent de ouais, c'est un super joueur, franchement, je leur dis calme-toi parce que c'est qu'un joueur moyen de Ligue 1 et c'est pas le crack qu'on veut nous faire revendre.
Et puis voilà, et puis pour revenir sur le Grémy, il marque 7 buts sur les 16 que met.
Nice, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que ils ont
J'arrive pas à voir le nombre de passes décisives, mais si tu ajoutes à ça le nombre de passes décisives, tu dépasses forcément les 50%, voire atteindre les 60%.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça.
Je vais vous dire ça.
En tout cas, comme tu as dit, il doit être. C'est comme je l'ai dit en préambule, j'ai dit que c'était. Une grosse perte pour l'équipe niçoise, surtout dans le secteur offensif. C'était lui qui animait le jeu offensif, qui marquait, qui passait, qui accélérait, qui rendait cette attaque la plus emballante possible. Maintenant qu'il est plus là, je sais pas comment ils vont faire. Hein.
Non mais depuis là, je suis en train de chercher un peu la nature de la blessure.
Je suis en train de regarder.
Moi, je l'ai juste entorse à la cheville, donc. Je sais pas,
je vous dire ça.
Ça peut durer longtemps.
Parce que bon, une entorse à la cheville, le seul gros problème quand t'as une entorse à la cheville, c'est que si tu la soignes mal et que tu reviens après, ça peut empirer, devenir un peu.
Si vous voulez, je viens de voir l'action là, c'est.
Chronique, si jamais tu. Torse, ça va, c'est pas.
C'est pas le ça se passe dans la surface, je pense, de Sochaux. Non, de Nice. Donc, c'était un retour de Rémy. En fait, c'est un contact en voulant tacler. Ils sont deux à tacler le ball en même temps et c'est là qu'il se fait mal. Il me semble que c'est Boutbouz qui laisse le pied, donc ouais, c'est assez rude en effet, ouais. Donc je sais pas si c'est au niveau du genou ou...
C'est un torse à la cheville, Nicole d'accord. a dit que ce n'était pas trop méchant, donc je pense qu'il en aura pour 2 matchs ou un truc comme ça.
D'accord.
Ah, okay. Tu peux enfoncer. Puisque le prochain match de Nice, c'est contre Marseille.
Ah, oui, en effet.
Ah, bon, alors c'est pas grave.
Donc vraiment une très mauvaise nouvelle pour Nice qui perd un de ses éléments principaux et qui en plus perd les 3 points sur une action litigieuse. Et donc merci Jérémy qui m'a permis, on va passer au prochain match. Voilà, tout à l'heure je m'étais enflammé pour rien, on avait oublié un match. Donc je disais donc avec Habib et Romero, on a suivi à 3 le super match, que dis-je, le match magnifique entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille à Bollard.
Et Lens a aussi gagné
à la 93e, à la 93e. But d'Eduardo, et figurez-vous que 20 minutes auparavant, j'avais annoncé à Roméo et à Habib, dégoûté devant la performance de leurs joueurs, que Marseille avait marqué à la 93e.
Non, voilà,
c'était mon expérience personnelle.
Non, 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 t'as dit clairement que Eduardo allait marquer à la 93e minute.
Et non, 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 dommage, non, non, ça s'est pas passé comme ça. Tais-toi, l'enfant. Laisse l'écran expliquer. Alors, pour que vous sachiez tout, en fait, alors, en milieu de deuxième mi-temps, il nous dit, je sens bien un bon but à la 93e minute. Donc moi, je m'en rappelle très bien parce que le fameux 93, c'est le débat qu'on a avec.
Oui, oui, c'est 93.
Donc, déjà, ça m'avait marqué. Et puis, juste avant le but, il fait, allez, un petit but d'Eduardo à la 93e. Donc moi, quand je vois le but d'Eduardo une minute après, je pense que juste mon, même pas une minute, c'est quoi, 20 secondes après, je pensais que j'avais juste un retard par rapport à son streaming ou quelque chose. Donc voilà, nous, ça nous avait franchement super surpris parce que il avait l'air parfaitement serein et sûr de lui en nous expliquant qu'ils allaient marquer à la 93e, c'est exactement ce qui s'est
passé. En même temps,
Bip, si je peux donner mon point de vue parce que j'étais présent, il l'a peut-être dit après, mais je suis pas sûr. Hein. Enfin, je jette un petit peu dans la mare, mais bon.
Non, honnêtement, non. Ouais. Il l'a dit juste avant parce que. Non, mais ce que je t'expliquais, c'est parce que quand il le dit, 20 secondes après, il marque. Donc pour moi, c'était mon stream qui avait du retard.
Ah oui, il faut pas dire streaming, c'est interdit, c'est péché.
C'est pas bon. Quand je regardais le live de la LFP.
Sur Justin TV.
Non, sur LFP.fr. Moi, je suis un pas de problème avec Sarkozy. Moi, je suis tranquille. Moi, c'est mon camarade, non.
En attendant, c'est pas tellement un grand visionnaire, hein. C'était assez prévisible. C'est tout à fait Marseille, ça. Mais c'est tout à fait l'OM. Et je supporte quand même.
En train de me dire que c'est pas un grand visionnaire, alors que en milieu de deuxième mi-temps, il nous explique, hein, il nous donne la minute et le buteur, et 20 secondes avant, il nous donne la minute et le buteur.
Non, mais tu sais pourquoi c'est ça, quand même. Ouais. C'est que, Eduardo, le gars, il marque jamais. Il met un but, c'est contre Marseille. Mais ça, c'est une habitude à Marseille, ça.
Il marque pas contre Marseille.
Non, mais voilà.
Autre possibilité, Aurélien,
je suis d'accord avec toi. La loi de Murphy, tu vois, on l'a testé, vu, prouvé, reprouvé.
Ah, t'as vu ça?
Les mecs, le premier match de leur saison, les équipes qui se relancent, les gardiens qui se relancent, les joueurs qui se relancent. On a tout.
Moi, j'ai un sacré souvenir comme ça, c'est j'étais en finale de la Coupe de France contre Paris et je vois Dorasso qui met son seul but de la saison, en fait, et qui met
une grosse frappe.
Dorasso, de l'espace, n'importe quoi.
Donc sinon, pour revenir sur le match, Berk.
Ouais.
Voilà. Berk. Je te préviens tout de suite. Le premier qui m'explique que c'est à cause de la Ligue des Champions, je lui mets une tarte dans la gueule.
Non, pas du tout.
C'est à cause de des actions. Des actions, on en a eu. On a eu des actions dans ce match. Ouais. Mandanda sauvé un pénalty. Et je vous l'annonce dès maintenant. On va en faire nettement moins sur ce pénalty sauvé par Mandanda que sur les parades de Lloris. Je te dis, les médias en général vont mettre en avant la parade de Mandanda que les arrêts de Lloris, parce que maintenant c'est devenu comme ça. On va en faire un petit peu plus sur Lloris, un petit peu moins sur Mandanda, parce que c'est le vent, tu vois, le vent a tourné. Bon, après on va pas trop sur le reste.
Non, mais moi j'ai beaucoup aimé sa parade sur la frappe de Maoulida tout à l'heure.
Oui, parce que le pénalty est mal tiré, donc c'est pas non plus.
Après le pénalty est mal tiré, il est pas totalement sur sa ligne, elle lui vient dessus quand même, la balle. Il a très bien anticipé.
On en parlait en off. Tu sais très bien, le nombre de pénalty bien tiré. Voilà. Que ce soit en amateur, en universitaire, en handisport. Des pénaux bien tirés, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, tu vois, je te dis pas les pénaux bien tirés, pardon. Je veux dire, tu vois, les gardiens qui respectent le coup de faire les déplacements uniquement latéraux. Ça existe quasiment pas.
Oui.
Donc, comme tu me l'expliquais, parce qu'apparemment, Jupiler League, on est très pointilleux là-dessus. Mais,
c'est le règlement qui est appliqué peut-être un peu trop à la lettre, mais normalement, il doit respecter la ligne de but. Il n'est pas sur sa ligne de but. De toute façon, vu la contestation sur le penalty, on va pas lui reprocher de l'avoir arrêté parce que ça aurait fait encore couler beaucoup d'encre, ou pas, comme tu l'as dit.
Non, mais le péno, bon, c'est un péno du pauvre pour moi, parce que
Si, ouais, c'est pas flag.
Je prends pas comme on siffle le pénal. Parce que celui-là, il est vraiment énorme. Mais il est vraiment énorme, ce penalty. Et bon, là, Demont, il se laisse bien tomber quand même.
Oui, bah, carrément.
Sinon, sur le jeu, on commence à taper qui?
Que
on peut juste écouter. Théo, par exemple. On va commencer par Théo, non?
Ah oui, bah oui.
Il en fait pas un genre de foot, ce joueur.
Pas un joueur de foot.
Non, non, c'est comme pour le PSG, c'est plus un athlète qu'un joueur de foot pour moi. Franchement, qu'est-ce qu'il a comme qualité footballistique? Dis-moi, vas-y.
Il sait faire des touches.
Ah oui, voilà, il sait faire des touches et des grosses frappes de bourrin. Et des grosses frappes de bourrin.
Non, arrêtez avec le cliché de Théo a une grosse frappe. Théo, il a pas de grosse frappe. Théo, il frappe fort, c'est pas pareil.
Oui, voilà, c'est ça, c'est frappe de bourrin.
Grosse frappe, c'est Lampard, c'est Gerrard, ça rentre. Lui, ça rentre pas.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, ce qui m'a surtout dérangé ce soir, tu vois, c'est que je suis sûr qu'on va encore sortir avec la Champions League, ceci, cela, parce que ça nous a pompé de l'énergie, parce que... Non, c'est... À la limite qu'on m'explique que mentalement, les joueurs étaient moins impliqués, ça, je veux bien le croire. Mais quand on voit les occasions qu'on rate, quand même...
Ouais,
c'est énorme.
Mais par contre, ce que fait Niang en deuxième mi-temps, fin de deuxième mi-temps.
Ouais.
Et puis ensuite, Bakayoko.
La balle, elle est en plastique ou quoi?
Loin vers les étoiles, tu vois. Voilà, quoi, c'est. Mais de toute façon, de façon générale, Niang, moi, il commence franchement à me saouler parce que, déjà, il joue nettement. Il est nettement moins bon que l'an passé. En plus, s'il se met à râler à chaque fois, on s'en sort pas. Après, moi, l'autre tâcheron de Brandao, il me sort franchement par tout ce que vous voulez. Là, ça commence franchement à être chiant de voir ce mec là. Il croque action sur action. Ouais, Randy Depugné.
Enchanté. Il en sort pour le match.
Il croque action sur action, franchement. Et puis moi, là, ce qui m'énerve, c'est qu'en plus, il râle tout le temps aussi, c'est pareil. Il est tout le temps en train de faire à l'arbitre. Mais j'ai que broyé la cheville. Pourquoi il y a faute? Ben, un connard. Connard, t'es un connard, c'est pour ça.
Puis il a un visage ingrat aussi.
C'est un attaquant qui, au final, si on fait la balance, tu vois, entre les buts qu'il marque et le but qu'il fait, l'impact physique dont on parle tout le temps, mais son impact physique positif, à savoir ce qu'il...
C'est négatif.
En gros, affaiblir les défenses. Si on met ça en rapport avec tout ce qu'il rate et l'apport offensif négatif, à savoir les fautes offensives, c'est plus favorable. Et c'est ça le problème, c'est que c'est plus favorable. Parce qu'après Brandao, le truc c'est qu'il joue à Marseille, donc forcément il va en mettre des buts. Forcément, c'est pas un mauvais attaquant. Ça reste pas des meilleurs attaquants. Mais si on fait trois catégories, il est dans la deuxième catégorie facilement. C'est pas un problème. Le truc c'est qu'il rate les buts qu'il faut pas rater. Et puis je le disais l'autre fois, Brandao vise. J'en ai ras le cul. Pourquoi il vise toujours en dessous de la barre? Faut l'expliquer à lui. En fait, tu chopes Ben Arfa. Viens ici mon gamin. Tu chopes l'ours, tu lui dis viens toi, tu lui tires un steak ou un truc pour qu'il te suive, parce que sinon il comprend pas. Allez, viens, suis le steak, et tu expliques à Alain que s'il marque, même au milieu, c'est pas grave. Malige, comme on dit. Malige, tu peux, hop, tu vois le grand truc avec des filets, ça rentre, c'est bon. Lui, il essaie toujours d'aller pleine lucarne. Et c'est super chiant parce que au final, ça nous coûte quasiment la qualification maintenant pour se qualifier.
Ouais.
Mettre 3-0 Real ou 4-0, on va bien se marrer.
Ou compter sur Juric, mais bon, ça semble aussi tout autant.
Ensuite, choper Ben Arfa et lui expliquer le foot, lui, du début jusqu'à la fin. Alors tu vois mon petit Hatem.
Enfin, des passes.
Dans le mec qui a le même maillot que toi.
Mais avec lui, c'est pour pas lui expliquer les passes ou pas. D'abord, tu lui expliques. Alors regarde, tu vois ceux qui ont les mêmes maillots. Qui ont le même maillot, 9 Télécom, c'est tes amis. Même si c'est ton ami quand tu vas dans le
ils truc. Ils prendront la balle après.
Tu vois, comme il disait Moussa Dembélé, Gara Dembélé à la Clairefontaine, des grandes billards verts. C'est ça, tu expliques. Tu vois, quand ils ont la même couleur que toi, c'est ton ami. Hop, code visuel. Il est bleu, hop, t'es bleu, tu donnes le ballon. Déjà, faut lui expliquer qu'il joue pas tout seul. Et ensuite, faut qu'il mûrisse un peu, ce mec. Ouais. Il a une mentalité de merdeux.
Mais il est con, hein. Alors, quand on l'interview, il est con, hein.
C'est qu'il fait un match de merde et que Dassi arrive par derrière. C'est un génie. Il le compare à Messi.
C'est pas faux, quand même. Enfin, Messi, c'est faux. Peut-être exagéré, mais c'est quand même un génie. Enfin, je
peut-être.
Crois que,
un génie. Tout le monde ouais, oui, c'est un génie. Tu fais croire que c'est un grand footballeur. Ça, c'est,
non,
ouais,
ça, c'est footballeur.
Il nous fait croire qu'il a un potentiel.
Non, mais malheureusement, il s'est. Non, mais malheureusement.
C'est un arnaqueur de génie. Tu sais combien il touche Ben Arfa? C'est dans les 200 000 euros.
Malheureusement, ce joueur-là, il s'est auto-bridé tout seul, quoi. C'est ça le problème.
S'auto-bridé. La question, c'est de savoir si en fait, il s'est pas tout simplement, il a tout simplement pas les qualités qu'on lui prête. Ça peut être ça.
Ouais, aussi. Voilà. Non, mais il a pas.
C'est
non, mais.
Plus logique. Parce que je veux dire que si à un moment en France, on remarque pas que un mec qui était censé être un super génie, s'il l'est pas, parce qu'au final, on s'est tout simplement trompé de diagnostic.
Ouais, il lui manque. Non, mais il lui manque encore des aspects au niveau tactique, au niveau collectif.
Tout. Tactiquement, il lui manque tout.
Oui, tactiquement, voilà, oui.
Mais vraiment tout.
L'intelligence de jeu, surtout. C'est surtout
intelligent. Il lui faut juste l'intelligence dans la vraie vie, déjà.
Oui, non, mais oui, il est con, mais alors...
Plus intelligent.
Ouais, c'est dommage.
Voilà, non, mais voilà. Et puis apparemment, d'après ce que j'ai écouté un petit peu à droite et à gauche, le truc, son gros problème, c'est qu'il a, en plus, l'histoire avec Deschamps, c'est qu'il a pété un câble parce que les internationaux africains sont arrivés en retard et que personne n'a rien dit. Alors que lui, quand il rate l'avion, on en a fait des tonnes. Tu vois, donc, non seulement le mec, c'est un gros con sur le terrain, mais en plus, il est complètement auto-centré et il pense que tout ce qui a un rapport avec l'OM, c'est lui. Ça veut dire qu'en gros, il ne joue. On le savait ça de toute façon. C'est, je veux dire que dans la génération des 87, ils sont tous comme ça. Que ce soit Benzema, Nasri, ils sont tous comme ça. Menez, c'est pareil. Ils sont tous comme ça. Ils pensent tous qu'à leur gueule.
C'est à cause de la lune. Dommage, parce que
la même année. Ils ont quand même du talent. Peut-être pas de quoi devenir des super footballeurs. Mais bon, au moment, faut juste qu'ils réfléchissent un peu plus. Après. Il y a quand même pour moi un seul point positif sur ce match-là. Un seul. J'ai pas vu Valbuena. Ça m'a plu, ça.
Ouais, faut arrêter. Faut le faire rentrer, lui, putain.
Pourquoi?
Parce qu'il est fort, Valbuena.
Il est fort.
Valbuena, oula, tu trouves qu'il est pas fort?
Dans quel référentiel?
Aïe, de quoi?
Dans quel référentiel?
C'est un bon joueur de Ligue 1, mais...
mais il bouge les défenses, les gars, mais arrêtez voir. Non, alors là, vous abusez, là. Brandao, je suis d'accord. Ben Arfa, je suis d'accord. Théo, je suis à peu près d'accord. Et là, je suis plus d'accord du tout, là, par contre. Valbuena, c'est un super bon joueur.
Est-ce que tu faisais partie des mecs... Sois honnête avec moi. Est-ce que tu faisais partie des mecs qui ont accepté Valbuena avant qu'il n'arrive? Honnêtement.
Non, non.
D'accord. Non, parce qu'il y a quand même la majorité des gens qui défendent Valbuena, c'est ceux qui m'expliquaient avant même qu'il n'arrive à Marseille, avant même qu'il ne joue, ils me faisaient tous croire qu'ils le regardaient jouer quand il était à Libourne.
Non, non, moi pas du tout.
Non, parce qu'en gros, il était meilleur joueur de national et puis bon. Valbuena, moi je trouve moyen, pas bon, juste moyen.
Ouais, moi aussi. Donc, ouais, moi.
Mais comparé à ceux qui avaient sur le terrain,
à Marseille, on se trompe beaucoup de casting quand même. On s'est bien trompé dans le casting. On a plein de joueurs comme ça qui sont apparemment bon, mais finalement pas si bon que ça. Valbuena. Valbuena, c'est celui qui me dérange le moins pour deux raisons. Déjà, sur le terrain, il est pas complètement ridicule. Enfin, parfois, pas complètement ridicule. En Ligue des Champions aussi, je le trouve vraiment ridicule.
Bah, c'est le haut niveau.
Et puis, surtout, le plus important, c'est qu'il nous a rien coûté. Donc, à la limite, on s'en fout. Mais, Koné et Ben Arfa. Bon, après, bon, Valbuena, là où il fait mal à tout le monde, c'est sur la melonite qu'il a. Lui, c'est même plus un melon, Le mec,
il connaît,
D'ailleurs, ils sont
c'est quand même un des acteurs principaux l'an dernier.
Non, mais ils sont où ceux qui m'expliquaient que Valbuena allait signer à l'Atlético Madrid?
Bah, c'est les
médias. Ceux qui m'expliquaient qu'il y avait des offres de l'Atlético Madrid. Ouais. L'Atlético Madrid, ouais. Non, mais ouais, c'est le genre de mec.
Dans la merde, s'il avait signé là-bas aujourd'hui.
Et puis là, j'aimerais surtout que quelqu'un me retrouve ou me trouve une vraie preuve que le Zénith a offert 18 millions pour Valbuena.
Non, en fait, l'histoire du Zénith, Habib, l'offre du Zénith, elle a été faite, sauf que c'est Valbuena, j'ai revu des articles de l'époque, et c'est Valbuena qui a refusé d'aller au Zénith.
Oui.
Non, mais l'offre était réelle.
L'offre était réelle.
Non, mais je sais très bien que c'était lui qui a dit non, donc les dirigeants n'ont même pas négocié. Mais en gros, voilà, ça prouve un peu la melonite de ce gars-là.
Ouais, voilà.
Mais bon, c'est
quand même.
Après, on a des. Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, oui, juste pour dire, pour l'année dernière, quoi. Je veux dire, Valbuena, ça a quand même été à des artisans, quand même, que de la bonne place marseillaise, quand même. Non, t'es pas d'accord avec ça?
Bah oui, mais oui, comme tous les autres joueurs, mais lui, il est très loin dans la liste, quoi. Tu vas avant de penser à Valbuena, tu penses tout de suite à Nyang, tu penses tout de suite à Mandanda, tu penses tout de suite à Chérou, tu penses, même Lorixana avait apporté plus que lui l'an passé.
Ah, mais là, bien sûr qu'ils sont au-dessus.
Tu vois, mais c'est ça le problème, c'est que Valbuena, au final, il est quand même loin, enfin pas loin, mais dans le milieu, si on fait la liste des joueurs les plus importants à Marseille, pourtant il se comporte et il parle comme si c'était un des plus importants.
Oui, non, mais ça je suis d'accord.
Est-ce que vous avez vu la publicité ou le petit reportage qu'ils avaient fait sur Téléfoot sur les slips Valbuena?
Oui, Kamo Sutra, oui, bah.
Ouais,
bah,
il nous explique qu'il est bien parce que c'est sobre, discret, élégant, alors que c'est des trucs jaunes.
D'ailleurs, mais on parlait de Ben Arfa là tout à l'heure. J'en profite pour passer un petit coucou à Gourou, le gourou de la cour des miracles, Topic OM. Ça faisait quelques temps que j'étais pas passé. Bah, j'y suis allé tout à l'heure. Je regrette pas le voyage, quoi. Entre les débiles.
Comment? Non. On va pas les insulter tout de suite, mais bon, tu l'as dit, hein. Et arrête de me voler mes expressions. C'est vraiment la cour des miracles. J'entends de tout. C'est pour ça que j'ai posé la question d'abord à Renaud, c'était pour savoir. Loïc, pardon. Ouais, pardon, excuse-moi. Loïc, c'était pour savoir si lui faisait partie de ceux qui avaient déjà adoubé Valbuena avant même qu'il ne foule les pelouses de Ligue 1.
Pas du tout, je l'avais jamais.
Non, parce que moi je te dis, je sais pas si tu es nouveau ou pas sur le forum, mais en fait, il y avait des gens qui avaient déjà des signatures Valbuena, notre sauveur.
Oh oui, non, peut-être pas non plus.
Ouais, non, mais. Voilà.
Sinon, les points positifs de l'OM, c'était quoi sinon pour vous? Parce que rien, moi, je vois rien. Bah, à part Mandanda, moi, je vois pas autre chose. Hein.
Non, mais il y a rien. Je pourrais vous poser une question, les gars.
Enfin, si, c'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours les mêmes. C'est ça, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on avance pas. Chérou, Abriel qui se bat super bien.
Ouais, Abriel, très bon joueur, ouais.
Ouais, voilà, Abriel qui se bat bien. Diawara, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais. Mais après, ouais. Tu vois, c'est pas individuellement qui m'ont déçu, à part les joueurs que je viens de citer. Après, les autres donneront leur avis. Mais pour moi, c'est Bocali, surtout qu'il n'y avait pas de... Oh, Bocali. Ouf. Le truc, c'est que Bocali, moi, je m'en fous. Tu vois, je l'attribue aucun mérite. Il a été très moyen. J'entends rien de Bocali, tu vois.
Non, moi non plus.
Lucho m'a
particulièrement exaspéré. Ouais.
Lucho m'a particulièrement exaspéré. Surtout qu'après son match plutôt intéressant contre le Milan, j'attendais peut-être plus.
Ouais.
Là, il fait une entrée complètement dégueulasse, mais après, c'est pas spécialement sur ça que je vais le charger, parce que bon, il y a tout simplement des joueurs qui sont mauvais quand ils entrent en jeu, tu vois, et d'autres joueurs qui adorent ce petit rôle-là. Donc voilà, moi, c'est pas spécialement sur ça, mais surtout, ce qui m'a énervé, c'est d'un point de vue général, c'est de voir que c'est le match typiquement à la Marseillaise. C'est surtout ça qui m'a dérangé.
Okay.
Pas mal d'actions, pas mal de trucs. Et puis, tu vois, je me posais des questions, en fait. Cette phrase-là, je pense que je l'ai dit à chaque fois que j'ai regardé un match sur Soccers avec les animateurs. Je me posais la question de savoir pourquoi à Marseille, on marque jamais des buts de loin, des frappes de loin, et pourquoi nos attaquants sont les seuls qui ratent les face-à-face. Voilà. Ben, on a encore
eu. Et en plus, j'ai eu
Skaraté, Nyang, Skaraté Chérou.
Mais en plus, vous avez écouté le match sur Orange? Vous avez regardé le match sur Orange? Orange Sport?
Moi oui.
Non,
je suis pas de sport. Orange.
Non, on a regardé, comme l'a dit Habib, sur le site de la LFP.
Non, oui, bien sûr, j'y
crois. Toute égalité, ouais.
Non, mais il parlait d'une stat impressionnante quand même, c'est Grougneux, c'est le gardien qui s'est pris le plus de frappes de loin, en fait, depuis le début de saison. C'est quelque chose genre 6-7 frappes, quelque chose comme ça. Là, il pleuvait, la pelouse, voilà, je veux
non,
dire.
Mais, non, mais Rougneux, Jecteur, les taupes. Il fait partie de la génération des gardiens.
Il est encerclé de 40 000 poivrons aussi.
c'est pas vrai de dire ça. En plus, arrête avec le cliché. Eux, c'est pas les poivrons, c'est les consanguins. Non, mais plus sérieusement.
Mais Rougneux, c'était déjà sa spécialité au standard. Hein. C'était déjà son gros point faible sur les frappes lointaines.
Marseille aussi, on l'a bien vu, tu vois. Il chope aucun ballon, tu vois. Il les repousse tous. C'est un peu comme Stojkovic. C'est les gardiens manchots. Ils ont que des moignons, en fait. Ils ont pas de doigts. Donc, ils chopent pas, ils repoussent. Ouais. Et le gros problème, c'est. Voilà, après, tu sais que t'as un peu quand même. La différence, en fait, tu vois, l'intelligence tactique qui me surprend. Tu sais que Rougneux, il est pas super fort là-dessus, tu frappes. C'est comme le Roi qui, après le match, la branlée au parc, il nous expliquait après pourquoi il fait, je sais que Rougneux sort beaucoup. L'an passé aussi, il lui met un énorme lob. C'est pareil, je sais que Rougneux sort beaucoup. Non, c'était pas Rougneux, c'était Richer. Je sais plus sur qui il marque un superbe lob. Donc voilà, il faut aussi adapter son jeu en fonction de l'adversaire.
Exactement.
Il y avait trop frappé là.
Franchement, très bon. Je vois pas trop souvent Lance, mais il était déjà très bon en face à face, en duel, en un contre un. Donc ça, c'est peut-être aussi. Mais c'est une remarque très pertinente ce que tu dis, Habib. Mais comme tu l'as dit toi-même, si les Marseillais ne tentent jamais leur frappe à distance depuis bien longtemps, ils vont pas changer ça en dépit de la faiblesse supposée du gardien adverse, malheureusement.
Mais le problème, c'est que surtout que moi, c'est pareil. Et finalement, qui on a comme bon frappeur?
Chirou.
Bon,
malheureusement, il y a que lui qui tente de loin.
Chirou Nyang, et puis.
Un soldat.
Nyang, il a tué des pigeons.
Ah non, c'est même pas des pigeons là. Ils sont en train de bosser depuis 2 heures là sur la station internationale, tu vois. À réparer un peu de panneaux solaires. On a déglingué 2 ou 3. Et puis tu vois, il y a plus de ligne de téléphone en Chine là. Il a niqué le satellite. Mais après, le truc, c'est aussi de se dire que voilà, nous à part Nyang, Chirou et puis Théo, si jamais les astres sont alignés, on a personne pour mettre des frappes de loin.
Non, c'est vrai.
On connaît si de temps en temps. Abriel, je sais pas trop, mais c'est pas spécialement sa spécialité. Enfin, c'est pas trop sa spécialité. Et puis donc voilà, moi ce qui m'énerve, c'est que à Marseille, c'est toujours les mêmes défaites. Donc c'est chiant quoi à la longue. C'est le genre de match où franchement il y a de la place, où ils sont légèrement supérieurs à l'adversaire, vraiment légèrement. Là, surtout aujourd'hui, c'est
ça manquait d'envie aussi là.
Ouais. Est-ce que t'en penses? En même temps, le problème, c'est qu'on a le choix entre Bison pas futé devant ou alors Morientes complètement cramé, tu vois.
Mais lui, faut. Est-ce que vous croyez que c'est pas le match du Milan qui reste encore dans les têtes pour ce soir?
Non, pour moi, c'est des problèmes.
Non, je pense pas parce que d'abord, en plus, ils sont pas battus. Hein, c'est pas comme s'ils prennent 3-0 à Milan. Hein.
C'est l'excuse à la française, tu vois. C'est l'excuse du perdant. Le mec qui perd, c'est pas bon. Quand tu joues tous les 3 jours, c'est pas bon. Putain. Est-ce que tu as entendu Mandanda quand tu lui expliquais? Ouais, mais si jamais tu joues le PSG, si tu es titulaire contre l'Écosse, il fait, mais moi je m'en fous si je joue tous les 2 jours. Tu vois, honnêtement, tu demandes à n'importe quel footballeur, à moins qu'il soit blessé, il te dit jouer tous les 3 jours, ok. Mais en fait, il l'utilise que quand il perd. J'ai jamais vu un mec d'une équipe anglaise, par exemple, qui a fait le. Tu vois, qui ont gagné tous les matchs du Boxing Day et de la période de fin d'année, ensuite venir nous dire, oh putain, c'était chiant, on a gagné tous les 2 jours, putain.
Habib, moi je te parle pas physiquement. Je te parle aussi mentalement, parce que quand ils sont passés d'une. Ils sont passés pas loin d'un exploit de ramener les 3 points de San Siro. Peut-être que la frustration inconsciemment est restée dans leur tête.
J'ai bien commencé tout de suite en disant que physiquement c'était pas une bonne excuse, mais que mentalement peut-être le fait en plus par rapport à ce que tu dis, il y a aussi le fait que évidemment un déplacement à San Siro c'est nettement plus bandant qu'un déplacement à Bollard.
Voilà, déjà.
Mais d'un autre côté, tu écoutes le lac des Connemara, quoi, tu vois.
Quand tu vas jouer contre une des équipes qui est derrière du classement et que t'es pas motivé,
ils sont pas battus 3-4-0, ils ne prennent pas une tôle à Saint-Giro, quoi. Donc, si à chaque match, ils se démobilisent mentalement, c'est
voilà, c'est pour ça que je dis. Et en plus, tu vois, c'est de la même façon que tu as des mecs qui te disent dans d'autres sports, ouais, au tennis spécialement, ouais, il a gagné parce qu'il était fatigué. Ah bah oui, mais le tennis, c'est fatigant. Le sport, c'est fatigant. Et c'est pareil, le sport, c'est tu utilises ton mental. Donc si jamais t'es pas assez fort mentalement pour encaisser le moindre truc, ben oui. Et en plus, franchement, on a quand même une belle tripotée de losers hein, à Marseille. Donc les mecs ont su rebondir après des grosses désillusions, on en a plein. Hein. Tu crois que Edouard Cissé, le fait de perdre une finale de Ligue des Champions 3-0, ça lui a pas fait de mal? Tu crois que le fait que les cousins entre guillemets Diawara et Nyang, quand ils se font éliminer de la coupe de la qualif pour la Coupe du Monde dès le premier tour, je crois que ça leur a pas fait de mal. Donc tu vois, tout le monde a vécu des trucs comme ça. Après, c'est trop simple.
Là, c'est la... Non, mais.
Tu vois, parce qu'en plus, si tu dis ça, alors imagine-toi le mec qui a perdu sa fille. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Bah, non, mais.
Surtout.
Ouais, on a un exemple récent, mais.
J'allais dire un truc, mais c'était une vanne très douteuse, donc je la garde pour moi.
Non mais Habib, ouais, surtout que ce soir on n'a pas vu une équipe qui était empruntée, qui avait peur, qui arrivait pas à produire du jeu, à se créer des occasions. Il y a eu des occasions, mais il y a eu un criant problème de finition devant ce soir.
Bah comme d'hab, ouais, comme d'hab.
Moi je parle aussi de motivation.
Et Milan,
non.
Bah si, déjà
je pense pas que le match de ce soir influe sur.
Moi je pense qu'il y a un peu de ça quoi. Je mets pas tout sur ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça.
Non, Ramayad, d'accord.
Ramayad n'est pas d'accord.
Elle est jamais d'accord, elle, donc.
Tant pis. Eh ben, ça aura
laissé Ramayad s'occuper de ce qu'elle veut. Ouais, mais purée, on va laisser s'occuper de ce qu'elle veut. Non, mais voilà, donc tu vois. Après, on a le droit de dire que le recrutement est peut-être pas bon. Et puis de toute façon, moi j'avais dit que le seul truc qui m'avait déplu dans le recrutement, c'était surtout qu'il manquait un autre joueur offensif. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on voit maintenant parce que
il manque un buteur.
Honnêtement, je pense que pas forcément un buteur, parce que moi je pense que Brandao, tu vois, au moins Brandao, c'est un mec qui a compris le foot. Il est pas bon, il est pas fin plutôt, mais il a compris le foot. Il sait ce que c'est que le foot. Il sait comment ça marche. Après, il sait pas forcément bien l'appliquer, mais il l'a compris. Donc lui, plus tu lui envoies de ballons et plus il va avoir de chances de marquer. Faut juste lui envoyer beaucoup de ballons. Tu as un autre bon mec à associer côté droit et puis ça va mieux. C'est surtout simple pour moi le problème. Après, il y a aussi la façon de voir, comme tu l'as dit toi, de dire évidemment, si tu as Van Nistelrooy devant, Van Nistelrooy il finit à 45 buts en Ligue 1. Mais voilà, c'est juste pour dire que. Pour moi, c'est surtout parce que le jeu de Marseille finalement est stéréotypé et passe surtout par l'axe, parce que c'est là qu'on a nos meilleurs joueurs. Bah, nos milieux de terrain qui sont quand même le point fort de Marseille, c'est le milieu, c'est la petite connexion là, le petit trio. Enfin, quand ils jouent, hein, Mbia,
Chéreau,
Abriel. Même si Edouard Cissé, au final, il est de moins. Moi, il me convainc de plus en plus. Hein, c'est un bon petit joueur, sans plus, tu vois. C'est le joueur moyen de Ligue 1, intéressant. Ouais. Même s'il a fait
pourri.
Il a fait de grosses conneries, ouais, plus ou moins en début de saison, mais au final, il est pas si mauvais que ça, tu vois. À Milan par exemple, il est bon.
Ouais, c'est vrai.
Ce soir, honnêtement, je le trouve ni bon ni mauvais. Et moi au final, tu vois, un mec, s'il est ni bon ni mauvais, à la limite, c'est déjà suffisant, tu vois. C'est surtout ce qui pénalise l'équipe qui me dérange. Et quand Brandao rate l'action, là, il pénalise l'équipe. Donc voilà, moi, c'est surtout par rapport à ça. C'est un jeu trop stéréotypé, le recrutement a été mal fait au final.
Ouais.
Bah, je crois que. Ouais. Qu'on dure le match Racing Club de Lens Olympique de Marseille.
Attends,
alors, avant de passer au quiz,
finir.
Vas-y, Roméo.
Superbe déclaration de Jean-Claude Dacier pour finir, qui nous dit « Ça serait aventureux de s'en séparer, ce n'est pas d'actualité, c'est notre messie à nous et comme tous les génies, il a une personnalité bien particulière. » Merci Jean-Claude, à la semaine prochaine.
Merci. Voilà, donc on va pas se lancer sur un débat meilleur, pas parce qu'il y en aurait trop. Oui.
Hugo.
Bon, bah, on va pas se lancer sur un débat Ben Arfa parce que sinon ça va durer des heures. Je crois qu'il y a Marvolo qui a vu Malaga Football Club de Séville. Donc Marvolo, si tu voulais dire un mot rapidement sur la Liga avant de passer au quiz.
Les trois petits matchs d'aujourd'hui. Bon, il y a d'abord eu Sporting Villarreal qui confirme que ça va pas. Même si ces derniers matchs c'était un peu mieux, mais ils perdent 1-0 but de Mate Bilic. Le gros fait de match, il y a eu deux gros faits qui montrent qu'il est apocalyptique, il n'y a franchement pas d'autre mot, c'est les cartons rouges, là, qui, en train de retrouver un bon niveau, il arrête deux pénaltys quand même, il fait beaucoup d'arrêts, et puis, voilà, moi, c'est une équipe qu'on est, parce qu'ils n'ont pas de grosses gueules, ils n'ont pas de gros connards dans l'équipe, ou de mecs super arrogants, c'est des mecs qui bossent bien, au final, ça marche pas, par contre, Rijon continue à prouver qu'ils sont bien cette saison, et que, s'il continue comme ça, ils vont continuer tout simplement à rester en Primera sans trop de problèmes. Sinon, à part eux deux, il y a quand même deux joueurs que j'ai bien appréciés. Moi, c'est Rivera d'abord. Bon, Rivera, il m'a saoulé parce que quand il était au Betis, c'était une vraie chèvre. Et là, je vois qu'il joue de mieux en mieux. Et puis, Marcos Senna qui revient petit à petit. Et pour moi, ça peut être une des clés de la réussite de l'Espagne en Coupe du Monde, parce que l'Espagne, c'est un concentré de talent, mais lui, là où il est vraiment intéressant, c'est que lui, c'est un des seuls, quoique Fabregas est bon aussi là-dedans, à pouvoir mettre des grands coups de savate quand il faut calmer le jeu. Donc moi, je pense que c'est positif pour eux. Ensuite, on a eu Valencia Mallorca, but de Villa et égalisation, mais stupide au possible de Borja Valero sur penalty. Alors, je sais que ça va pas trop plaire à Thibaut ce que je vais dire, mais quand on voit le penalty que concède Bruno Saltor, je comprends pourquoi le Betis voulait dessus, quoi, parce que c'est typiquement le genre de penalty à la Betica, quoi. C'est le genre de truc où il y a absolument pas à faire faute et puis il va mettre un penalty complètement con. C'est dommage parce que Valencia, c'est quoi qu'on en dise, une des valeurs sûres, c'est pour moi le meilleur quatuor offensif de la Liga, voire même d'Europe. C'est pas les joueurs les plus connus au monde, hein, parce que on sait très bien qu'un Mata ou qu'un Pablo Hernandez, ça fait bander pas grand monde en dehors d'Espagne, mais c'est des vrais bons joueurs. Silva, Bia, bon, ils sont déjà beaucoup plus connus. Et puis un Banega que je trouve de plus en plus souverain au milieu de terrain. Sinon, à noter la blessure de Silva, et on a bien vu qu'en deuxième mi-temps, sans Silva, c'était pas terrible. Sinon, côté Mallorca, ils montrent juste qu'ils sont quand même vachement plus à l'aise cette saison que l'an passé, parce que déjà à domicile ils perdent jamais, et puis à l'extérieur là ils accrochent un bon point, même si je pense que le point c'est plus un point que perd, enfin c'est plus deux points qu'ont perdu les Valenciens ce soir, parce que honnêtement ils ont été un petit peu au-dessus, même carrément au-dessus sur ce match-là. Et oui Thibaut, Mallorca fait les putes, mais bon ça tu le sais très bien, et c'est pour ça que j'en reviens encore à ce que je disais à Rognetto. De temps en temps, tu es obligé de faire la pute, tu es obligé de jouer mal, parce que de toute façon, dans le jeu, Mallorca n'a pas les moyens de rivaliser avec Valencia. Et oui, je te le confirme. Hein. Núñez, c'est vraiment un gros tâcheron aussi. C'est le Brandao de la défense de Mallorca. Et de toute façon, tu vas le voir plusieurs fois. Suffit de le voir plusieurs fois, tu vois, pour voir que c'est vraiment un mec qui est absolument pas fin, quoi. Tu vois, c'est les défenseurs à la Wellington, par exemple. C'est les mecs qui pensent d'abord à te fracasser avant de jouer au foot. Donc, c'est que ça reste quand même une contre-performance, parce que Valencia était sur une, c'est quand même pour moi, c'est une contre-performance parce qu'en plus ça rompt un peu la dynamique. Et puis, Valencia, moi, ce que j'ai surtout apprécié cette année à Valencia, c'est que d'abord, défensivement, ils sont beaucoup plus stables. Et puis surtout, il y a quand même un jeu qui est pour moi plus travaillé, plus tactique, alors que, avant, enfin l'année dernière et les années précédentes, pour moi c'était plutôt des buts marqués, tu vois, grâce à des exploits individuels. Alors que là, non, il y a une vraie dynamique, et ça c'est surtout parce que, on a ce fameux quatuor qui joue ensemble et qui joue bien ensemble. Et puis le dernier match, c'est Sevilla-Malaga, donc Sevilla qui va pas utiliser l'excuse de la Ligue des Champions pour expliquer pourquoi ils ont fait match nul. Mais donc Sevilla qui fait match nul donc à domicile contre Malaga, un des derbies andalous. Malaga menait 2-0, début de Fernando, encore un autre ex-Betico qui cartonne une fois qu'il est parti, et Duda, l'international portugais, doublé de Luis Fabiano. C'est même un match que Sevilla aurait pu gagner en fin de match. C'eût été injuste parce que Malaga a quand même fait un bon match, mais le problème c'est que il y a eu un. Aujourd'hui défensivement ils ont pas été bons du tout. Donc et ça s'est vu tout de suite, mais après. Ce qui est intéressant et ce qui est bon avec eux, c'est que Sevilla, c'est quand même une équipe qui est capable d'aller ultra vite quand ils sont en contre-attaque. Et puis, la grosse différence par rapport à l'an passé, c'est que maintenant, ils ont quand même un banc offensivement plus fort, parce que Perotti a explosé, ce qui a envoyé Capel sur le banc. Et avoir un mec comme Diego Capel sur le banc, c'est quand même un gage de qualité. Et pareil pour l'attaque, là, ils ont Fabiano, Negredo et Canute. C'est même si c'est tous des gars très forts physiquement, c'est quand même des caractéristiques un peu différentes. Fabiano, c'est le mec qui aime bien les espaces. Negredo, c'est le mec qui va plutôt en puissance. Alors que Canute, pour moi, c'est un peu le mec fin entre guillemets. Même si lui, dans le domaine aérien, en plus, il apporte un truc énorme. Donc moi, en plus cette équipe là du Sevilla, si d'aventure ils ont un tirage facile en 8e de finale de Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent faire très 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 mal aux équipes. Donc voilà, et puis je pense que on sait tous que la grosse actualité c'est demain, c'est à 19h. Tenerife, n'importe quoi. Barça Real. Donc je pense que vous savez tous qu'il y a une émission demain, donc on vous invite à la suivre. On va essayer d'inviter le plus de membres réguliers des topics Barça Real, histoire de faire une émission un peu différente d'habitude. Donc voilà, c'était une journée très très courte. Et puis demain, on reparlera des autres résultats rapidement.
Ben merci beaucoup Habib, c'était très intéressant comme toujours, même si t'as encore fait une fois un petit solo. Donc on va pouvoir passer au quiz. J'ai finalement eu le temps d'en faire un, donc il y aura bien un quiz. Donc je vois qu'ils sont en train de s'organiser sur la conversation écrite. Alors comme il y a Loïc qui est là, c'est une de ses premières, donc on va lui expliquer les règles du quiz. Alors ce soir, j'ai décidé de faire le quiz sur les transferts de la Ligue 1. Donc je vais vous poser, je sais pas, on va dire trois fois chaque fois à votre tour. Deux fois, ça va être en solo parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc pas d'équipe. Donc chaque fois, je vais vous poser une question et pendant deux tours, les questions vaudront un point et après les questions vaudront trois points. Enfin, je vous dirai quand les questions vaudront trois points. Donc les questions à un point, c'est chacun votre tour. J'annonce, genre par exemple, je dis Roméo, je te pose la question, un point. Et les questions à trois points, c'est tous en même temps, et c'est le premier qui répond qui a le point. Donc voilà, donc solo. Donc j'ai bien Roméo, tu fais le quiz.
Oui, bah oui.
Habib, tu fais le quiz. Habib, tu fais le quiz. Loïc, tu fais le quiz.
Oui.
Jérémy, tu fais le quiz.
Oui.
Vous êtes prêts?
Et il y a aussi Yaki et Chris.
Ah.
Yaki et Chris. Chaleureusement invité par Roméo.
Voilà.
Est-ce que Yaki est là? Yaki est là?
Est-ce qu'on m'entend?
Oui.
Bonsoir,
oui,
Yaki.
On t'entend, l'utilisateur.
C'est nickel.
Bien, bien. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bon, bah très bien. Non, bah, donc, on va être 6. Donc, je regarde si j'ai assez de... Je ne sais pas si je vais avoir cette question, donc on va faire des équipes de 3, hein, parce que...
Ça va être compliqué. Ça m'arrange. On va faire des équipes de 6, on sera sûr qu'il y aura beaucoup de...
Voilà, j'ai tiré les équipes, et donc je vous les annonce.
3 contre 3.
Non, 2, 2, 2. Habib jouera avec Roméo.
Oh là 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 là. C'est pas ce que tu fais, mon petit ami. Tu ne sais pas ce que tu fais. On m'a niqué deux fois. Il y a eu des antécédents, hein, je pense. Là, on peut le dire honnêtement.
À chaque fois, je suis avec l'homme-femme.
Mais non, le tirage au sort, ce n'est pas l'homme.
Non, mais
c'est le tirage au sort. C'est le tirage au sort. Et
alors, expliquez-moi pourquoi tout le tirage au sort en donnait toujours le même
résultat. C'est la destinée. Tu ne peux pas.
C'est la seule fois que j'ai pas joué avec Roméo, tu m'as battu.
Tu ne peux rien contre le destin, Habib. Tu ne peux rien.
Ça remet en cause beaucoup de choses sur le sort et le destin et tout ça.
Ouais. Je pense que dans mon ancienne vie, j'étais un mix entre Hitler, Marc Dutroux et un zoophile. Et maintenant, je paye.
Oh, t'es dur avec moi, là.
Ouais, toi aussi, t'es dur avec moi. C'est toi qui es nul. Et maintenant, je suis avec Tico. Ouais, Tico.
Voilà. Donc, je rappelle, Habib avec Roméo, Loïc avec Yak et Chris avec Rognetto. C'est parfait.
Courage, Rognetto.
Est-ce que vous êtes...
Ok.
Est-ce que vous êtes prêts?
Merci, Chris.
Alors, on va pouvoir commencer. Alors,
si on n'est pas prêt là, on sera quand?
Habib Roméo. Alors, John Arne Riise, avant d'aller à Liverpool, dans quel club évolue-t-il en Ligue 1?
Monaco.
Un point pour vous. Loïc et Yak, Will Tord, avant d'aller à Arsenal, dans quel club évolue-t-il?
Bordeaux.
Oh, la question pour vous.
J'avoue, c'était pas dur.
Le mec, il est bordelais, on lui dit...
Chris et Rognetto, Pires avant d'aller à Arsenal, il joue dans quel club?
J'ai peur de dire une grosse connerie.
Allez-y.
Ah ouais, quand même.
Marseille, non?
Ah
oui. Non. Un point pour vous.
Ok.
Ah ouais, quand même, ils ont hésité.
J'allais dire une grosse connerie en plus.
Dribble 6 avant d'aller à Liverpool. Dribble 6 avant d'aller à Liverpool.
Auxerre.
C'est bon.
Tu te rends compte à quel point Loïc... il est facile ton quiz? Deux questions, Roméo connaissait les réponses.
Loïc, Loïc et Yac. Oui. Cantona, avant d'aller à Leeds, dans quel club évolue-t-il?
Marseille, non?
Non.
Non.
C'était Nîmes. C'était Nîmes.
Ouais.
Nîmes.
Yeah. Oh.
Oh. Ouais, j'espère que t'as d'autres questions dures. Hein.
Oui, eh, moi, je la connais, c'est dit Nîmes avant.
Chris Ronietto, Frey, avant d'aller à Dortmund. Chris Ronietto, Frey, avant d'aller à Dortmund. Alexander Frey.
Rennes.
Aucune idée. Ah, ben oui, Rennes.
Mais, oui.
Mais c'est Chris qui a donné la réponse, donc c'est bon?
Non, au début, je sais pas, c'est Sébastien Frey, donc j'avais pas compris.
C'est Rennes, non?
Donc c'est...
Donc on va passer à la question à 3 points. Alors je rappelle rapidement les règles. C'est la première équipe qui répond qui a le point. Donc ma question va être assez simple. Je veux
attends, il faut que le premier dise son prénom parce que sinon ça va être un brouhaha énorme. Je dis ça pour toi.
Oui, bien sûr. Ouais. Non mais d'habitude non, je m'en sors bien. Donc oui non mais tu as raison. Alors je veux un champion du monde des moins de 17 ans international algérien.
Christophe, je sais pas.
Attends.
Mourad Mekmi.
Un champion du monde.
Oui, Habib, c'est bon.
Thomas.
Thomas.
Ça c'est pour compenser le karma avec.
Non, non mais Habib, toutes les catégories là, je suis
Non non, j'ai pas du tout écouté la question, désolé.
Ouais, c'est ça. Je voulais. Ben, non, en tout cas, Habib a trouvé. Donc, je voulais un international des moins de 17 ans, un champion du monde moins de 17 ans qui est international algérien. Et la réponse était ou Mourad Mekmi ou Hassan Yebda. Donc, bien joué, Habib, tu as trouvé. Bravo à toi. Donc, Habib Romain ont 5 points, Loïc Eyak 1 point, Chris et Ronietto 2 points. Et je rappelle que, comme d'habitude, la première équipe qui arrive à 10 remporte.
Et Aurélien, tu sais que tu peux aller moins vite, hein. Te calmer, te poser un peu.
Mais c'est pas moi qui le vide, c'est vous.
Il a ah non, non, parole, tout, non, c'est pas lui qui le vide, c'est tout.
Bon, bon, on reprend.
Tu as trop dit le cadeau, ok? Faudrait prendre un peu de Ronietto et le mettre dans Aurélien.
Donc, on change l'ordre des équipes. C'est Habib et Roméo, donc, qui sont en tête. Suivi de Chris et Ronietto avec 2 points. Loïc et Yac avec 1 point. Donc, maintenant, l'ordre de passage. Et l'équipe qui a le plus de points, ainsi de suite. Donc, c'est toujours Habib et Roméo qui commencent. Et donc, une question un peu plus compliquée pour vous deux. Corentin Martins, avant d'aller à la Corogne, évolue dans quel club?
Moi, je... Habib.
Auxerre.
Moi, je dirais...
Oui.
J'hésite entre Auxerre et Strasbourg. Mais je me rappelle plus dans quel sens. Mais...
Moi, je pensais à Strasbourg, ici.
Eh ben, Habib, tu avais raison de répondre avant Roméo, puisque c'était tout à fait la Géoxerre.
T'aurais pas pu répondre plus tôt.
Auxerre, Auxerre, pas Auxerre.
Auxerre. Excusez-moi. Chris et Ronietto.
Oui.
Vladimir Smisser, avant de jouer à Liverpool, dans quel club évoluait-il?
C'est un club français ou...
Ouais. Oui, c'est bon, Jérémy. 3 points pour vous, 3 points pour vous.
Ah ben, merci.
Loïc. Loïc et Yac. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Ouais.
J'ai l'impression que je suis tout seul. Ah oui, non, ça y est.
C'est gentil pour Yac, ça.
Non, mais je l'entends jamais, donc je sais pas.
Azimovic, avant d'aller à Al Hilal, dans quel club évolue-t-il?
Oh.
Joueur slovène, international slovène.
Oh, il
s'en merci pour l'info. Ouais, je te la laisse, celle-là, Loïc.
C'est facile.
Avant quoi, tu m'as dit?
Avant de jouer en Arabie Saoudite.
Ils ont plus de temps, ils trichent, là.
Je vais dire... Il me semble qu'il est passé à Lille, mais je sais pas si c'est
vrai. Oh,
oui, c'est lui.
Ils ont eu trop de temps. Mais comment t'as triché? Ils ont eu trop de temps.
Il est passé dans un club français. Je donne le club français. Je savais pas que c'était avant.
Mais il a donné trop de temps, espèce de connard.
Petit rappel, bon. Lors du quiz.
J'adjuge la réponse, mais
strictement interdit, je le rappelle.
C'était assez surprenant. Donc on recommence du début. Habib Roméo, à vous de jouer. Xavier Gravelaine, avant d'aller à Watford, dans quel club évolue-t-il?
Oh, il est passé par tellement
de télévision.
Alors là j'hésite.
Et tu vas devoir. Si je te donne j'hésite entre deux clubs, tu me dis. C'était soit Paris, soit Marseille. Mais je sais absolument pas lequel.
Roméo, à toi de trancher. Vite.
C'est moi qui choisis, je dis Paris.
Vite. Eh ben, tu as raison, Roméo.
Bien joué.
Chris et Rognetto.
T'aurais pu dire poser à moi, celle-là.
Comment avant d'aller à la jeunesse d'Esc, dans quel club a-t-il évolué? Cyril Pouget, avant d'aller à la jeunesse d'Esc.
Aucune idée.
Qui, quel joueur?
Cyril Pouget.
Moi je sais pas.
Vous savez pas? Aucune réponse? Non, rien.
Là où il a été formé?
C'est le football club de Metz.
La classe. Et Metz, s'il te plaît, pas Metz.
T'as oui, Metz.
Et Pépé Flingueur.
Ouais, Pépé Flingueur, ouais. La classe.
Alors, Loïc et Yac est très rapidement.
Oui.
Christian Val, avant d'aller à Barcelone, dans quel club a-t-il évolué?
Monaco.
Monaco, ouais.
Et oui, 3 points pour
c'était
vous.
C'est le mec, c'est noir.
On va pouvoir passer à la question à 3 points. Êtes-vous prêts?
Allez.
Alors, je veux.
Attends. Attends, non, parce que là, je suis mal positionné sur ma chaise, c'est bon.
Non,
mais c'est alors, vrai, j'étais
dans ce une soir, toutes les questions, peu alors, académique. Toutes les questions à 3 points concernent la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Oh, ah ouais.
Et je veux un joueur qui a pris sa retraite à 23 ans et qui a fini sa carrière à Lyon-la-Duchère.
Champion du monde de moins de 17 ans.
Si, j'ai vu un reportage sur lui. Non, j'ai vu un reportage sur lui. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas.
Personne. Formé à l'Olympique Lyonnais.
Oui, je sais.
Non, je sais pas.
Sinon, il y a un mec qui va te faire Jean-Marc, mon mec.
La réponse était Kevin Jacquemot.
Mais oui, en plus.
Moi, ça me semblait évident, mais j'ai vu
en plus récemment un documentaire sur lui.
Ouais.
Triste
destin tout de même.
C'est un milieu de terrain.
On va reprendre les questions et nous ne changeons pas à un point et on change pas l'ordre des questions puisque Habib Roméo sont toujours en tête, Chris Rognetto ont toujours 3 points et Loïc et Yac 3 points, donc on change pas l'ordre. Donc on commence toujours par Habib et Roméo. Nicolas Kedek, avant d'aller à l'Espagnol Barcelone, dans quel club a-t-il évolué?
Qui ça, j'ai pas entendu.
Nicolas Kedek.
Wedek.
Ouais.
Non. Enfin,
oui, c'est bon.
Ouais. Non, tu me disais Kedek, je disais, hein.
Oui.
Nicolas Wedek, connu pour avoir marqué un but en demi-finale de Ligue des Champions contre la Juve.
Chris et Rognetto. Oui. Franck Sauzé, avant d'aller à l'Atalanta Bergame, dans quel club a-t-il évolué?
Chris, t'as une idée?
Non.
Moi non plus.
Voilà.
Non? C'était pourtant assez simple, c'était l'Olympique de Marseille.
Ah ouais, il part quand on descend en D2 à l'époque.
Aurélien, petite précision, c'était bien sympa avant l'émission, tu m'as dit non, ce ne sera pas un cuit sur la Ligue 1. Hein,
oui, je t'ai dit ça à 22h16 quand j'ai
dit. Et Mourad Meghni, c'est pas la Ligue 1?
Merci pour la précision.
Alors, Loïc et Yac, vous avez l'occasion de prendre la seconde place. Richard Dutruel, avant d'aller au Celta Vigo, dans quel club a-t-il évolué?
Attends, j'ai une petite idée, mais j'ai peur de dire une connerie.
Paris, PSG.
Oui, c'est bon.
Quel joueur vous avez?
Vous prenez
Dutruel.
Vous prenez la seconde place.
Bien vu.
Putain, c'est donc on change, on va changer l'ordre des passages. Chez vous.
On a combien de points là?
Vous en avez 8, vous êtes à 2 points de la victoire.
D'accord.
Habib Roméo, à vous de jouer. Belmadi, avant d'aller au Celta Vigo. Dans quel club évolue-t-il?
Sur PSG, mais je suis pas sûr.
Réponse.
C'est PSG ou l'OM?
Ouais, c'est l'OM, tu crois?
Vite.
Moi, je dirais.
Bah, vas-y, là, c'est l'OM.
Et c'est faux. C'était Cannes.
Oh vache, rien à voir.
Loïc et Yac.
Mais attends. À Cannes, il était juste prêté.
Oui, mais donc, ça change rien.
Je sais pas.
Dans laquelle il a volé. Je suis pas dans le club où il a à qui il a
parlé. Non, d'accord.
Vincent Candela, avant d'aller à l'Estrom, dans quel club évolue-t-il, Loïc et Yac?
Oh, c'est facile ça. Je sais.
Vite, j'entends le clavier là. Vite.
C'est pas le mien. Non, c'est moi qui écris.
De merde là.
Putain.
Oui, c'est un club italien de merde.
Non, c'est un club français, mais un petit club.
Eh, il y a plus trop de temps.
C'est fini. En plus, Marvolo a donné la réponse sur le chat, donc non, c'est fini. C'était effectivement Guingamp, Habib.
On a Ju qui ne, Ju, il s'empêche pas de nous le rappeler à chaque fois, ça. Hein.
Chris et Rognetto. Sylvestre, avant d'aller à l'Inter de Milan, dans quel club évolue-t-il?
Chris.
Une idée.
On peut taper un gars, comme on dit ici.
Vas-y, au pire, vas-y, allez. Fais-toi plaisir.
Je sais pas, j'irai à Marseille, mais. Non.
Non, du tout.
C'est Rennes, non?
Oui, c'était tout à fait Rennes.
J'ai dit Rennes, je l'avais dit tout à l'heure en plus. Je devrais répondre la même réponse.
Alors, on va pouvoir passer à la question.
Et le score là, ça donne quoi? Ça donne une espèce de viol. On est en train de les violer complètement là, non?
Oui, alors je vais rappeler le score, tu as tout à fait raison. Donc pour l'instant, Habib et toi, vous meniez en tête avec 8 points. Derrière vous, Loïc et Yac vous suivent avec 4 points. Et Chris et Rognetto ferment la fin du classement avec 3 points.
Bon bah merci d'être passé.
Voilà, alors la question à 3 points. Bon, je pense assez facile, donc pour une fois, vous allez tous répondre, ça va être à la vitesse. Lors de la Coupe du Monde, des moins de 17 ans, de 97, oui, 97, oui, je vérifie mes sources, quel joueur français a loupé son tir au but pour l'équipe de France et l'a empêché d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans?
Christophe? 97, Thierry Henry.
Emmanuel Petit.
Non.
Non, si c'est.
Vous avez tous faux. Bon bah, c'était
Nicolas. Non, moi j'ai aucune idée, je vais pas.
Aucune idée.
C'était Nicolas Anelka. Je pensais que vous saviez parce que on en avait beau. Comment? Voilà, donc on va repasser aux questions à un point. On fait deux tours et donc si Habib et Roméo font un sans faute, et ils gagnent la manche. Et donc Habib et Roméo, c'est toujours vous qui commencez. Alors Marc Vivien Fouet, avant d'aller à West Ham, dans quel club
est-il? Oh là là.
C'est à Lyon.
Non, c'est perdu. C'est perdu.
Lyon c'est le dernier, forcément.
Ouais. C'est même
pas lui. Bah non, Lyon c'est pas le dernier.
Le dernier club français, c'était Manchester City. Et ben vous ne marquez pas le point.
Parce que tu as dit West Ham, moi j'ai entendu Manchester City. Comme un dit.
C'est à Loïc Ayak. Donc, Emers Faye avant d'aller à Reading.
Ouais, Nice, j'ai dit pareil.
C'est quoi la réponse?
Nice.
Non, c'était le Football Club de Nantes.
Non,
c'est vrai. C'est maintenant qu'il joue à Nice, Faye.
Oui.
Et il n'avait pas été prêté à Nice avant Reading.
Non,
il est allé à Nantes, je dis.
Ouais, non, mais c'était vrai.
Arrête.
C'était l'époque là où il nous faisait croire que c'était un dieu, lui aussi. Avec tout l'allant, avec Mathieu Berson.
Dembaba,
Dembaba,
ou je sais plus quoi.
Jemba, ouais.
Je confirme, ouais, c'était Nantes. J'ai vérifié, c'est bien Nantes.
Yapi Yapo.
Chris Rognetto. Jimmy Traoré, actuellement joueur de Monaco, dans quel club a-t-il évolué avant de signer à Liverpool?
J'allais dire Liverpool, ça aurait été trop facile.
Si tu joues à FM, tu le connais, ça, parce qu'il était hyper fort.
Oui.
Lens, non, je sais pas.
Et non, c'est pas non plus, je sais pas, on va dire, ouais, on va, je pense pas que ce soit Lens, mais on dit Lens, oui.
Et ben, c'est faux, c'était
Laval. Mais il a donné la réponse.
En plus, je l'avais donné la réponse, donc, oui. Ah, okay. Donc,
C'était quoi?
J'avais donné la réponse. Donc,
Ouais, mais nous sommes de trop bons joueurs, si tu veux, nous n'acceptons pas ce genre de procédé, nous.
Voilà.
Genre en gros, nous on est tous des vieilles putes.
Il se trouve. Attends, voilà. Donc on va continuer. Alors c'est à Bib. et à Roméo de continuer. Donc je vais prendre une question. Donc Wilfried Dalmat, dans quel club évolue-t-il avant de signer à Mons?
Oh, je sais. Bah, Nantes. Forcément.
Mais Nantes, il a été formé. Quand après Marseille, il est venu, il est parti ailleurs ou pas?
Ben, c'est ça. Je crois que t'as donné la bonne réponse.
Quelle est votre réponse?
Moi je propose Nantes.
Ben, c'est faux. C'était Grenoble. C'est perdu.
On était loin alors.
C'est perdu. Donc c'est à.
Ouais, ben, oui, on a compris.
Oui, Loïc et Yac, vous avez l'occasion de revenir sur un peu sur Habib et Roméo. Donc, c'est assez facile, je dois reconnaître. Peter Luxin, avant de signer au Celta Vigo.
C'est facile. Non, Paris. Simple, ça.
Bah oui. J'ai peur de dire une connerie.
Paris.
Je sais plus si c'était avant ou après, je dirais. Yac B, il a donné trois fois la réponse.
Ah, mais cherchez pas, c'est Paris. Paris. Non,
mais oui, je sais ce que je te dis. Yac B, il a donné trois fois la réponse en 5 secondes.
C'est fini. C'est...
Et Loïc continue à dire, oh putain, j'ai perdu une connerie.
Mais je l'entends pas, Yac, hein, ça, je l'entends pas, en fait.
Non, il a dit trois fois Paris. Ah, tiens, ça, c'est ce qu'on disait.
L'important, c'est que le maître du jeu
à Paris. De Marseille, on en parle beaucoup moins. Hein.
Oui. Bah donc, le point est pour Loïc et Yac, c'était Paris. 5 points. Chris Eronieto, à vous. Je pense que cette fois, Chris, tu vas pouvoir répondre. Enfin, j'espère.
Ouais, non, mais ça, j'aime pas les questions pièges. Hein,
vous avez dans quel club a-t-il évolué Guillaume Varmuse avant de signer à l'Arsenal?
Qui?
Guillaume Varmuse.
Ah, je sais. Ah, je m'en souviens, je le vois avec... Je m'en souviens. C'est pas trop vieux.
C'est sérieux, ta réponse, là?
Alors, c'est quoi la réponse? Vite.
Je dirais, mais je sais pas, je pense pas que ce soit ça, je pense que c'était après. J'aurais dit Lens, mais je me trompe, c'était avant.
Bah, dis une réponse, vite.
Je dis Lens, mais je crois pas.
Et bah, c'est bon.
Putain, le mec, il est resté 10 piges à Lens, il dit, peut-être que c'est Lens. Je sais pas.
Non, mais je pensais que c'était une question piège, en fait, donc c'est pour ça que... Je pensais que c'était une question piège.
Non, il n'y avait pas de piège dans ma question.
Ah ben, attendez.
Donc, on va passer à la question à trois points. Donc, c'est l'équipe la plus rapide qui encaisse, prend les trois points.
J'ai une réclamation à faire. Je viens de vérifier sur Jimmy Traoré et il a bien joué à Lens avant d'aller à Liverpool.
Oui, mais avant, il avait joué au Stade Lavallois avant d'être acheté par Liverpool.
Ouais, mais il a fait... Enfin, regarde ce que je t'envoie, là. Mais bon...
Attends une seconde. Non, un truc. Seulement, c'est que tu oublies que Jimmy Traoré, quand il va à Lens, il est prêté.
Non, mais
la première fois, c'est à Liverpool, c'est depuis Laval.
Mais en plus, que tu me donnes Roméo me donne raison, puisque tu mets Laval. Mais
c'est Jérémy Liverpool. Par Roméo.
Oui,
c'est quoi la réponse?
Excuse-moi. Oui.
C'était Rennes, la réponse.
Donc, voilà.
Non, mais bref, ouais, Lens, après Lens, il va à Liverpool, donc.
Mais non, d'abord, il joue à Laval. C'est là qu'il se fait connaître, entre guillemets.
Mmh. Oui, tout à fait. Donc, on va passer à la question à 3 points. La première équipe qui répond gagne 3 points. Donc, c'est la possibilité pour Loïc et Yac qui a 5 points de revenir à égalité avec Habib et Roméo qui ont 8 points. Et à Chris et Ronietto, pourquoi pas de revenir sur la course. Alors, face à quelle équipe en 2000, Arsenal a perdu la Coupe de l'UEFA?
Galatasaray.
Oui.
Oh là. Et on a gagné, Roméo. J'ai gagné avec Roméo. C'est comme si je mettais une branlée à Usain Bolt avec Maïté sur le dos.
Donc victoire de Habib et Roméo avec 11 points devant Loïc et Yac qui font quand même une belle deuxième place et puis derrière Chris et Rémi qui finissent quatrième.
Quand même une bonne réponse.
Voilà, merci à vous d'avoir participé à ce quiz un peu fait à la va-vite puisque je l'ai fait pendant l'émission, donc veuillez m'excuser si vous
voulez. Très bien débrouillé, franchement.
Non, il était très bien.
C'est vrai? Bah merci beaucoup.
Ouais. N'est-ce pas,
merci beaucoup. La semaine prochaine, j'essaie d'en faire un peu plus fourni et voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette émission, surtout ceux qui sont encore là puisque ça fait 2h14 qu'on parle. C'était vraiment
passionnant. Si, on a fait 3h13, hein, donc bon.
Voilà, merci à tous. Je vous invite demain
à aller sur...
la multisport à partir de 17h avec moi-même, avec Chris, avec peut-être Habib, avec sûrement Roméo. Voilà, venez à la multisport 17h et surtout ne loupez pas le débat after du dimanche soir avec un retour sur le classico et puis...